Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 5 janvier 2005 de 18 à 21h, en différé jeudi 6, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Résistons.
J'allais dire amis de la Résidence, parce que... Non, mais c'est intéressant de savoir. Les amis de la Résidence, c'est ceux qui se croient pas obligés d'aller partout dans le monde pour... Enfin, on en parlera tout à l'heure. Ah, donc, amis de la Résistance, bonsoir. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous n'avez pas attrapé... Ou que vous n'avez pas été attrapé, plus exactement, par... La cochonnerie qui court.
Le virus a sévi. Ils n'en mourraient pas tous, mais tous étaient frappés.
À l'école militaire, c'était mon surnom, virus.
Virus, ah
ben oui, parce qu'on m'appelait vieux russe, ça lui donnait virus. Et mon frère, c'était petit russe. Voilà, c'était notre minute de souvenir ému. Ce soir, autour de ce micro, monsieur l'abbé de Tannouarn. Bonsoir, monsieur l'abbé.
Bonsoir.
Vous savez que ceci est un micro.
Oui,
parler
tout
dedans,
à fait, tout à fait.
Ça ne mord pas. Christophe Mailleux, qui est porte-parole du congrès des cercles de la tradition de Paris. Je sais que vous êtes déjà venu dans l'émission de Daniel Amy. Pardon. Et nous parlerons de l'initiative que vous avez prise de réunir un congrès autour de la laïcité.
Bonsoir, monsieur Bekech.
Et monsieur Bruno Gollnisch, bonsoir.
Bonsoir, Serge.
Plaisir à vous recevoir dans cette émission. Vous êtes un homme rare dans tous les sens du terme. si, souvent, vous venez pas souvent dans mon émission.
Ah, si.
Trop
souvent votre hôte. Ah non, jamais assez, mais non, je ne vous ferai pas ce reproche.
Le Marquis.
Je passe plus souvent chez vous qu'à France Inter, si ça vous rassure.
Oui,
je dirais que c'est pas une référence.
Non, c'est peut-être
pas qu'ils m'ont pas invité depuis 10 ans.
Peut-être un peu plus marrant aussi. Monsieur le Marquis.
Bonsoir, monsieur le Comte.
Alors, vous avez échappé
à la grippe aviaire. Mais j'ai pas échappé aux poules.
Bon, on en parlera tout à l'heure.
Voilà.
Car le Marquis, qui ne fait rien comme tout le monde, est allé passer ses vacances de Noël, non pas en Asie du Sud, mais en Asie du Sud-Est, même en Asie de l'Est, si j'ose dire, puisqu'il était en Chine, ce moment-là.
Ah,
il était à Pékin.
31 décembre à Pékin. Voilà.
31 décembre. Est-ce pas chic?
Absolument.
Est-ce pas marquisal en diable?
Oui.
Voilà. Bien, et puis à titre tout à fait exceptionnel, je me suis fait accompagner de ma chère épouse qui ne dira rien parce qu'elle n'est pas inscrite au programme mais qui est à côté de moi et qui salue tout le monde.
Et nous la saluons car nous savons quel rôle éminent elle tient.
Nous sommes sous route et bienveillante surveillance.
Oh, que cela est bien tourné. Alors, je sais que tout le monde a des obligations, donc on va essayer de ne pas perdre de temps en vaines palabres. Je suis tout spécialement content de recevoir Christophe Mailleux parce que j'étais un peu surpris que apparemment aucune initiative ne soit prise par l'Église à l'occasion du centenaire de la séparation de l'Église et de l'État, autrement dit, de moi, ce que j'appelle la... non pas la trahison, mais quand, bon, comment dites, quel est le mot qu'on emploie habituellement, que j'emploie tout le temps et qui vient de m'échapper de la tête.
La séparation de l'Église.
Oui, c'est la séparation, mais enfin, c'est une espèce de trahison spirituelle de la France, de trahison
la négation,
de
la mission. Oui, de non-reconnaissance voilà. des racines chrétiennes de la France. Je vais dans le sens que vous annoncez, cher Serge de Bekesh, un article de La Croix ce matin, déclaré, puisque notre cher président Chirac a présenté ses vœux aux religions réunies hier, et sur ce sujet, je cite La Croix, « Les catholiques et le chef de l'État, ennemis il y a 100 ans, se retrouvent aujourd'hui. L'épiscopat et Jacques Chirac sont attachés au statu quo sur la loi de séparation des églises et de l'État et ne souhaitent pas rouvrir un débat toujours délicat. » Donc je ne pense pas que nous pouvons attendre quelque chose de l'Église. Nous...
C'est assez frappant, pardon de vous couper, de voir comment l'Église semble, l'Église conciliaire semble avoir totalement renoncé à ce qui doit être son rôle. Je pense notamment, je pense à une information qui a été diffusée ce matin sur les radios, ou hier, je ne sais plus exactement, on a annoncé que l'archevêque de Paris avait demandé aux catholiques parisiens de venir déposer une fleur blanche devant je ne sais quelle église,
Saint-Sulpice.
À Saint-Sulpice, en hommage ou en je sais pas quoi, témoignage de je ne sais quoi, peut-être de jardinerie, aux disparus d'Asie du Sud-Est. Alors voilà, maintenant, dans le temps, quand il y avait une catastrophe, les curés faisaient des messes. Bon, on réunissait des grandes processions, on faisait des manifestations propitiatoires ou expiatoires. Maintenant, on porte une fleur blanche. Ça arrange bien sûr les fleuristes. Moi, c'est évident que si tu fais avec des fleurs, c'est quand même plus intéressant d'être fleuriste. Dans le temps, c'était plus intéressant d'être marchand de chaussures. Voilà. Donc, j'espère au moins que l'archevêque de Paris va toucher une petite guelte sur les fleurs blanches. Tu vois, cette saison, les fleurs blanches, c'est quand même assez cher. Hein, les roses blanches. Voilà, alors on va déposer des fleurs. De temps en temps, on allume des bougies. De temps en temps...
Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'Église, qui s'est privée absolument de toute dimension symbolique dans son culte, avec ce nouveau rite de Paul VI totalement intellectuel et qui ne signifie rien, va maintenant inventer des nouveaux signes. Et ces nouveaux signes, malheureusement, sont parfaitement artificiels.
Puis surtout
c'est la fleur blanche, c'est ouais. la poignée de main, c'est...
j'ai constaté que personne n'entrait dans l'Église en déposant la fleur et on foutait le camp.
Alors, vous le savez comme moi, Serge de Bekesh, la politique, la nature ayant horreur du vide, les cercles de tradition catholique à Paris ont désiré occuper cette place et parler
il rattrape
de ce débat.
Ils ne laissent pas nous égarer, ils ont de la moelle les jeunes comme ça.
Exactement. Donc nous refusons bien évidemment la religion laïque de M. Chirac ou la laïcité positive à l'égard de l'islam de M. Sarkozy, cela va de soi. Nous tenons à nous opposer, oui, à cette absence, à ce silence de l'Église de France, et je pense que nous allons nous opposer à ce silence grâce à une déclaration que nous avons reçue, que les cercles de tradition ont reçue, une déclaration de Mgr Williamson. Alors pour nos auditeurs, il y a toujours de nouveaux auditeurs à Radio Courtoisie, je rappelle qui est Mgr Williamson. Mgr Williamson est un des quatre évêques ayant été consacré par Mgr Marcel Lefebvre le 30 juin 1988. C'est un homme qui assure actuellement des fonctions de directeur d'un séminaire, en l'occurrence celui d'Argentine, le séminaire de La Herrera, après avoir été directeur de séminaire du Minnesota. Donc Mgr Williamson nous a envoyé une lettre de soutien, et je dirais bien au-delà, un appel aux Français, aux catholiques français, sur cette journée. Alors j'aurais pu lire cette déclaration de Mgr Williamson, de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X, mais je pense qu'il revient davantage, à mon sens, à M. l'abbé de Tanoirne.
Vous faites faire durable, là, parce
exactement.
Que moi, j'invite pour parler du
tsunami.
Du tsunami. Moi, comme je suis vraiment un arriéré, je continue à parler d'un raz-de-marée. Vous voyez. Voilà, un raz-de-marée. Bon, un raz-de-marée en Asie du Sud. Pas le tsunami, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que, enfin, si, je sais, mais je ne vois pas... Bref. Alors, alors vous le piquez pour
je vous le pique. Italien. Je vous le pique. Je
veux bien faire une exception. Attendez, je viens de d'un évêque quand même. Mais
voilà.
À vous, monsieur.
Et alors moi, j'avoue que c'est un grand honneur pour moi de. Mais de servir de porte-parole à Mgr Williamson, que j'avais encore tout à l'heure au téléphone, et je dois dire que ce texte est magnifique, et que dans le silence assourdissant des évêques qui, au mieux, nous disent qu'ils aiment la laïcité, qu'ils l'aiment beaucoup et qu'ils en veulent plus, eh bien, je dirais, le discours tranche, quoi, très nettement. Et ce discours...
Enfin, de la part d'un évêque de la fraternité, c'est moyennement étonnant, quand même.
Oui.
Faut bien reconnaître qu'en général, leur discours tranche un peu.
Je crois vraiment que dans l'Église, c'est leur rôle, c'est le rôle des évêques de la fraternité, justement, de porter la vérité avec assurance, de porter l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, sans mettre trop d'eau dans leur vin. Lorsque Mgr Williamson m'en parlait, il me parlait d'eau dans le whisky, lui.
Oui, chacun
ses références.
Il faut dire que Mgr Williamson est anglo-saxon.
Pas anglo-saxon.
Il est anglais. Il est diplômé d'Oxford.
Williamson est un excellent terroir en matière de whisky.
En plus,
très bon whisky blond, merveilleux.
Voilà, donc je laisse.
Note du marquis.
Voilà.
Alors écoutez, moi je vais vous lire ce texte, et j'ai été, je dois dire, particulièrement sensible aux dernières lignes. Donc je demande aux auditeurs d'écouter jusqu'au bout.
Je l'ai sous les yeux, enfin, au-dessus de la table. Il n'est pas très long, je rassure les auditeurs.
Non, il n'est pas très long.
En général, la lecture des textes effraie un peu l'auditeur, mais ce n'est pas très long.
Alors, je ne pourrais pas prendre l'accent ineffable oxfordien de Mgr Williamson. C'est le seul problème. Bien chers amis français, votre pays célèbre cette année le centenaire de la loi Combes, par laquelle, en 1905, l'État français fois s'est séparé officiellement de l'Église catholique. La punition divine de cette apostasie nationale ne s'est pas fait attendre. Deux guerres mondiales qui ont éventré la douce France, c'est un Anglais qui parle, et frayé les voies à cette hécatombe de la foi que déclencha le Second Concile du Vatican. La punition cette fois semble être la réunion effective de l'Église et de l'État français, mais contre la foi. Et la France est enfiénée de l'Église et lucarne du monde. C'est toute l'Église qui en souffre et le monde entier qui est en ténébré. Français, que ce centenaire et ce congrès servent à vous rappeler l'unique remède, celui du pape Pie X en 1905, l'affirmation sans compromis de la pure foi catholique à la face de l'État et aujourd'hui de l'Église aussi. Affirmation seule capable de sauver et l'État et l'Église. Chers Français, les catholiques du monde entier comptent sur vous. Profitez de ce congrès pour nous montrer à tous comment relever l'étendard de la foi. Signé Richard Williamson.
C'est un texte magnifique. D'abord, qui fait preuve, qui prouve que même un diplômé d'Oxford a plus de vocabulaire français que moi, puisqu'il, lui, il avait le mot apostasie que je cherchais vainement tout à l'heure. Donc,
il a toujours le mot qui va bien. Tout à l'heure, il cherchait le mot rabiboché que j'ai fini par trouver avec un peu de mal.
Pas mal. Oui, ça, c'est vrai que c'est un très beau texte, et c'est un texte dont on s'étonne qu'il n'ait pas été proféré ou fulminé, pourrait-on dire, plutôt par un archevêque parisien, par exemple.
Ben moi, je crois que dans le grand vide ecclésial, ces évêques, sacrés par Mgr Lefebvre, ont un rôle extraordinaire à jouer. Parce que la nature a horreur du vide, vous le disiez, et l'univers surnaturel aussi a horreur du vide. Et je crois que leur parole est vraiment susceptible de trouver un écho.
Mais je vous remercie, M. Lévy, d'avoir lu ce texte. Alors, si vous voulez, après, on reviendra sur la question que je voulais évoquer avec vous, cette question de l'irruption du masdu, parce que c'est pas autre chose,
hein,
les mouvements d'animation spirituelle de la démocratie universelle qui se manifeste à l'occasion du phénomène naturel qui s'est transformé en catastrophe humanitaire en Asie. Mais on en parlera après si vous voulez. Je voudrais revenir donc sur le colloque. Alors, on voit que ce colloque, en tout cas, promet d'être assez musclé, parce que c'est un colloque d'opposition. C'est une opposition déterminée.
C'est un colloque d'opposition, effectivement. Nous devons d'être présents. Je pense que cet appel est bien clair. Il est dirigé vers tous les catholiques français, tous ceux qui veulent affirmer les racines chrétiennes de la France, mais non pas avec, j'allais dire, un esprit de nostalgie. Nous ne sommes pas des nostalgiques. Nous voyons l'avenir. Et nous pensons que cet avenir, eh bien, correspond aux lois de l'Évangile.
Vous êtes très très jeune, Christophe Mailleux.
J'ai 32 ans.
32 ans, oui. C'est encore très jeune, 32 ans. Hein. Plus pour longtemps, professeur, bien je vous le dis. Mais quel est l'âge moyen des animateurs et des membres des cercles?
Écoutez, le comité d'organisation, peut-être que l'âge moyen doit être entre 35 et 45 ans. 35 et 45 ans. Moi, je suis surpris de cette jeunesse. Alors, nous avons des personnes d'expérience qui sont là avec nous, qui sont là un peu comme nos aînés, qui nous conseillent. Mais je suis surpris par cette mobilisation. Je suis surpris par les débats que cela suscite. Alors, il est vrai que la séparation de l'Église et de l'État, ça fait un peu obscur. C'est en tous les cas plus obscur que la personnalité de Clovis, dont on a fêté le 1500e anniversaire de manière beaucoup plus importante. Alors Clovis, il est grand, il a une barbe, il représente un personnage. La haute séparation de l'Église et de l'État, il faut se dire...
Ils ont des barbes aussi, ils sont tout petits. C'est un...
Exactement, et ils sont très sombres. Et cette loi de séparation de l'Église et de l'État, je le disais chez Daniel Amiche, est une loi qui clôture 25 ans de combats anticléricaux qui ont... littéralement couper un élan spirituel qui s'est développé tout au long du 19e siècle, après la Révolution française. Donc cet élan spirituel, au fond, pour nous, c'est un signe d'espérance. On sait que nous pouvons vivre un élan spirituel, mais nous devons y mettre du nôtre, tout simplement. Nous devons agir. Et je pense que ce congrès participe à ce mouvement, tout simplement, d'apostolat, de mettre en avant cette opposition qui existe entre la laïcité et la chrétienté, une laïcité, comme le disait Mgr Williamson, à laquelle se rallie l'Église de France. Donc, nous n'avons rien à attendre de l'Église de France.
Est-ce que je peux ajouter un aspect, moi, qui m'a vraiment séduit dans votre démarche et qui me fait vous soutenir avec enthousiasme, et j'espère un enthousiasme partagé par les auditeurs, c'est que, aujourd'hui, on nous parle de la laïcité et de la montée de l'islam. Alors, il y a ceux qui n'osent pas trop le dire, mais qui ont peur un peu de la montée de l'islam et qui nous disent il faut plus de laïcité. Alors, non aux signes ostentatoires, on va faire un truc qui sera encore plus dur qu'au temps du petit père Combes, on pourra même plus dire qui on est, on n'aura même plus le droit de dire qu'on est chrétien et qu'on préfère être chrétien, parce que ce sera considéré, Monsieur Sarkozy l'écrit dans son dernier livre sur l'Église, les religions et l'espérance, j'espère que je cite dans l'ordre, c'est le tiercé qui est peut-être perdant pour moi, mais peu importe. Donc, on n'aura même plus le droit de dire qu'on préfère être chrétien. Parce que ce sera considéré, et il le dit, Sarkozy, comme du racisme. Et il emploie vraiment, il lâche les chiens, si vous voulez, il emploie les grands mots. Bon. Et je crois que il y a cette espèce de terrorisme de la pensée unique qui sévissait sur ce centenaire, et que vous qui êtes des cadres, qui êtes des jeunes, dynamique et enthousiaste, eh bien, ce que vous apportez à ce centenaire, c'est de donner une voix à des sans-voix. Vous donnez une voix aux catholiques. Parce que jusque-là, ben, y avait ceux qui disaient, oui, il faut respecter les identités. Alors, les identités, c'était l'islam, le plus souvent. Donc, il faut donner plus de liberté à l'islam. Il faut construire des mosquées. Monsieur Sarkozy explique dans son livre que, bien entendu, l'aménagement intérieur de la salle de prière sera quand même au frais de la communauté musulmane.
Mais c'est vous qui avez lu le livre, alors?
Ah, moi, j'ai lu le livre pour Pacte. Oui, bien sûr.
Je me demandais qui l'avait lu, mais c'est vous. Donc.
Je l'ai lu très... Et il est passionnant, Serge.
Sûrement. Non, mais...
Ah non, mais c'est...
Là, je vous fais entièrement confiance.
Oui, on voit un petit peu à quelle sauce on va être mangé, si vous voulez. Hein. Au nom de la discrimination positive, dont Sarkozy parle moult fois, eh bien...
C'est d'autant plus criminel, pardon de vous couper, c'est d'autant plus criminel de la part de Sarkozy qu'il a des origines hongroises. Et le sang devrait parler chez lui. Les Hongrois sont parmi les peuples qui ont connu dans leur chair le plus sévèrement la réalité de la présence islamique.
Ottomane, oui.
Ottomane, oui, mais islamique.
Oui, bien sûr, bien sûr, on est bien d'accord.
Et s'il n'y avait pas eu mon excellent camarade et peut-être arrière-arrière-arrière-grand-cousin Vlad Tepes d'Hydracul pour leur faire comprendre les fondements de la civilisation européenne, ils y seraient encore, vous comprenez ? Tandis que là, bon, ils ont compris assez vite. Hein. Quand on leur explique, ils comprennent. Et donc, ils ont cru que ce n'était pas nécessaire de s'attarder dans un pays où on leur fournissait des sièges aussi peu confortables.
Et alors, moi, ce que je trouve important, si vous voulez, c'est que quand on n'est pas d'accord avec ce discours sur les identités, sur l'identité musulmane qui doit être respectée et pour laquelle on doit, bien entendu, exercer une discrimination, mais positive, on tombe dans le laïcisme. Alors là, c'est l'agnosticisme obligatoire, on n'a plus le droit de rien dire, on n'a plus le droit de rien être. Oui, et c'est bien ça le drame, on a des spaghettis montés sur pattes.
Enfin, on a quand même le droit comme faisait cet après-midi je ne sais qui sur je ne sais quelle radio périphérique que j'entendais dans mon automobile à pétrole, où le gars expliquait que, bien entendu, Jésus-Christ, tout ça, c'était du pipeau. Disait-il à son interlocuteur, toi t'as cru à Jésus-Christ jusqu'à quel âge? Alors, il dit, 22, 23 ans, bah tu me prends pour un con. Tout ça, c'est une radio périphérique. Attention, c'est pas une radio...
Oui, périphérique. Bon.
Et d'ajouter, d'ailleurs, j'ai une statistique, 47% des Français ou 53% des Français croient que Jésus s'est probablement marié. Alors, on sait pourquoi il s'est marié, il aurait mieux fait de se paxer carrément, quoi. Il avait une femme. J'écoutais ça en me disant, est-ce que ce mec aurait simplement l'audace de dire la même chose, de tenir le même discours sur Mahomet? Non, pas du tout, parce qu'il sait très bien ce qui lui arriverait.
Lui s'est marié, ça, c'est sûr.
Lui s'est marié.
C'était pas vraiment son problème, le mariage.
Oui, oui. C'était le Chavannes sur Europe 1.
Eh bien, c'est une radio périphérique.
Ah ben oui, bien sûr, mais dites que c'est le Chavannes, ça sera mieux.
Mais j'étais pas sûr que c'était lui.
C'est l'émission de Chavannes au milieu de l'après-midi.
Ah ben voilà.
Et ben, c'est ça. C'est ça, est absolument mental.
Et alors, il lui arriverait, s'il faisait ça, ce qui est arrivé à M. Lagerfeld, c'est bien Lagerfeld.
Oui, Lagerfeld.
L'ancien gros, là.
Lagerfeld.
Qui a demandé pardon à genoux pour avoir montré une photographie d'une robe sur laquelle il y avait un verset du Coran.
Verset du Coran, oui.
Porté par je ne sais quel.
Un mannequin.
Oui. Bon. Alors là, à ce moment-là, d'ailleurs, tout le monde a trouvé ça normal. Lagerfeld a fait un don somptueux à je ne sais quelle mosquée. Est-ce que vous imaginez ça en France? Un type qui ferait une bêtise, un blasphème antichrétien, et l'archevêque de Paris recevant un chèque de 1 million de francs et en échange...
Il refuserait.
Il le donnerait probablement pour construire une mosquée. Enfin,
voilà. J'ai bien aimé sur votre tract l'idée de catophobie. Moi, je pense parce qu'on parle beaucoup de phobie, de diverses phobies, mais je pense qu'il y a vraiment une catophobie culturellement structurée.
Moi, je suis devenu phobophobe.
Permise. C'est une des rares phobies qui sont permises. Moi, je revendique le droit à la phobie. Il y a beaucoup de phobies qui sont interdites aujourd'hui. Mais celle-là, effectivement, va dans le sens du vent. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit à une petite réserve près. Si vous me permettez, vous avez dit nous n'avons rien à attendre de l'Église de France. Je crois que...
Officiellement.
Officiellement. Il faut exiger, demander et ne pas se lasser de réclamer même officieusement. Car moi, de la même façon que je me refuse absolument à considérer, comme le font certains, que les traditionalistes seraient en dehors de l'Église, je me refuse aussi à abandonner la masse des pasteurs, même en dessous de leur mission, mais bénéficiant malgré tout de la succession apostolique, je me refuse de considérer qu'il n'y a plus rien à attendre d'eux. Et même si vous avez raison, je ne dis pas que vous avez nécessairement tort, je crois qu'il faut toujours exiger, toujours demander, car je pense qu'une des grandes fautes des laïcs,
des laïcs que nous avons et que nous sommes, enfin, c'est d'avoir sans doute abandonné leur clergé à des entourages progressistes qui ont fini par s'assurer une position dominante au sein de l'Église de France.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Clairement, cet appel, l'appel de Mgr Williamson et notre appel, nous, en tant que comité organisateur du Congrès, est clairement de toucher tous les Français qui, pour qui le catholicisme représente une idée à combattre, à battre,
à défendre. Mais c'est très intéressant de rappeler en effet que la loi de 1905 dont on nous rebat les oreilles n'a pas du tout été une loi de pacification, n'a pas été une loi de neutralité, n'a pas du tout été une loi d'arbitrage entre des fanatismes qui s'affrontaient, ça a été une loi de combat anticatholique et qui a utilisé toute cette période du début du XXe siècle, dont la France s'est relevée très difficilement, parce que ça explique aussi son affaiblissement ultérieur, et qui a utilisé les moyens les plus ignobles. Les perquisitions dans les lieux sacrés, les profanations, les inventaires, les spoliations, des choses et qu'on a de peine. On nous dit aujourd'hui, par exemple, qu'on peut pas expulser un immigré qui est ici depuis 6 mois ou depuis 1 an ou depuis 2 ans. On a expulsé des
congrégations.
On a expulsé des religieuses qui n'avaient jamais rien fait que de soigner des malades, des prêtres qui n'avaient jamais rien fait que d'enseigner des enfants pauvres, etc. Ça a été parfaitement ignoble de bout en bout.
Et je crois que les auditeurs, peut-être, au moins les plus jeunes, mesurent mal le fanatisme qui régnait au début du XXe siècle.
Oui, c'est important de le rappeler parce que c'est probablement, on n'y pense jamais à ça, mais c'est probablement une des raisons pour lesquelles le clergé officiel, en tout cas le haut clergé officiel en France, est aussi aplati devant le pouvoir politique, parce qu'il a peur. Il a peur. La peur est une motivation importante dans le comportement des êtres humains. Et on voit bien que des gens qui ont été battus, traqués, après, ont la trouille, quoi. Les Français sont devenus majoritairement un peuple de trouillards parce que systématiquement, on les poursuit, on les attaque, on les sanctionne pour des choses qui, il y a 5 ans, 10 ans, 30 ans, apparaissaient tout à fait naturelles. Et c'est vrai que la façon dont on a traité les prêtres pendant la Révolution, puis la façon dont on a traité les prêtres pendant l'affaire de la séparation, et ensuite pendant à la Libération, car il ne faut pas oublier qu'à la Libération aussi, l'épuration a été une occasion de liquider pas mal de prêtres qui étaient...
Quand c'était les communistes qui tenaient le flingue.
C'était les communistes qui étaient du bon côté du fusil. Et ben le résultat, c'est que ça fait... Ben d'abord, par élimination naturelle, il ne reste que les mauvais, quoi, ça c'est clair. Alors, Dieu merci, ils ne se reproduisent pas, mais enfin, ça a introduit certaines habitudes. Et puis ensuite, et ben, ils se méfient et ils deviennent froussards. Et on le voit dans le discours des Français aujourd'hui, on le voit dans cette espèce de refus systématique de dire quoi que ce soit qui soit de nature à choquer. Alors, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Il n'y a plus aucun jugement négatif qui est porté, sauf, naturellement, sur les gens qui sont désignés à la vindicte par l'espèce de pensée unique, où on dit voilà. Alors lui, c'est un prêtre traditionnaliste, donc il est d'extrême droite, donc il est nazi, donc c'est Hitler, etc. Et à ce moment-là, donc, c'est haro sur le prêtre traditionnaliste, haro sur le militant nationaliste, haro sur le patriote, et personne n'ose dresser la tête contre cette espèce de curé permanente, de curé au sens de la chasse, permanente, parce que les gens ont fini par avoir peur.
Absolument.
Alors, sur le plan pratique, comment ça se passe ?
Alors, sur le plan pratique, je donne rendez-vous à tous nos auditeurs le 6 février prochain, au palais de la Mutualité. Donc, cette journée est organisée...
Le 6 février, c'est une date qui existe dans l'imaginaire des Français. Hein,
donc, le congrès est organisé par les cercles de la tradition catholique à Paris, dont je vais donner les coordonnées. L'adresse est la suivante, 24 rue Saint-Paul, 75 004 Paris. Le téléphone est le suivant, 01 48 28 33 62, 24 rue Saint-Paul, 75 004 Paris, le téléphone 01 48 28 33 62. L'entrée du congrès sera fixée à 9 euros. Toute personne qui cotise, enfin qui adhère à l'association, a droit à deux entrées demi-tarif au congrès, bien évidemment, sur présentation de la carte.
Et vous allez publier des actes ?
Pourquoi pas? Je pense qu'il y a
Vous avez un éditeur là.
Nous avons beaucoup d'intervenants. Les thèmes sont multiples. La loi de 1905 fut-elle une loi de séparation, une loi de ségrégation? Paul-Marie Couteau parlera de l'Europe, club antichrétien. Bon. Toujours est-il que j'invite les auditeurs à venir, toute association qui le souhaite, librairie, éditeur, association laïque, si elle le souhaite, peut avoir un stand. À ce moment-là, qu'elle contacte le Cercle de la Tradition Catholique à Paris au numéro que j'ai donné.
Et alors, quand vous expliquez que les associations laïques sont bienvenues à votre congrès,
c'est... Oui, ça, c'est... Mais alors, c'est, ça fait partie...
C'est une question piège ou...
C'est la pensée jeune, ça, maintenant. C'est un congrès contre la laïcité, il invite les associations laïques. Bon, enfin, ça
dans le texte, il a un peu... Je vais vous répondre à cette question, et je ne vais pas vous la faire, monsieur l'abbé. Vous qui êtes ce que vous êtes, c'est-à-dire un grand érudit, vous savez que le mot laïcité apparaît au 19e siècle. En 1870, on le trouve dans le Littré, tandis que le mot de laïque, lui, est beaucoup plus vieux. Dans notre histoire, je crois de mémoire, dans le Grand Robert, il le place au 15e siècle, et le laïc se définit par ce qu'il n'est pas, à savoir un religieux, un
clair. C'est un mot chrétien, en fait, laïc.
Exactement.
C'est un mot chrétien.
Merci. Je dirais même, si vous me permettez, qu'il existe une conception saine de la laïcité qui a été définie par Pie XII, qui est tout simplement la conception traditionnelle des deux pouvoirs, du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel.
Merci Christophe Maillot, il est bien.
Hein. Très bien.
Très très bien.
Merci à vous, Serge
Delquette. Rendez-vous donc le 6 février 2005 à l'appel des évêques de la fraternité, lancé par Mgr Williamson à la mutualité pour ce magnifique congrès des cercles de la tradition de Paris. Je pense qu'on sera nombreux à aller écouter la bonne parole.
Oui, j'ai oublié de donner le montant de l'adhésion. L'adhésion au cercle de tradition est de 15 euros.
L'adhésion simple.
L'adhésion simple.
Et l'adhésion compliquée, c'est compliqué.
Et bien, l'adhésion simple qui donne droit...
L'adhésion simple de 15 euros permet deux entrées, à demi-tarif. Bien évidemment, toutes les personnes qui souhaitent recevoir un reçu fiscal... Eh bien, qu'elle n'hésite pas à le demander. Et donc, vous pouvez aller bien au-delà de 15 euros. Tout don, bien évidemment, sera accepté.
Merci beaucoup. Merci, Christophe.
Merci bien.
Vous reviendrez parce qu'on va réannoncer ça. Je préviens les auditeurs qui... on fera peut-être moins long la prochaine fois, mais enfin, on en reparlera. Parce que c'est une initiative qui me paraît excellente. Monsieur l'abbé, je vous garde quelques instants. Je vais me tourner vers Bruno Gollnisch maintenant pour varier les plaisirs. Et lui interroger, bien sûr, sur... les réflexions que lui inspire, on va parler de politique, mais bien évidemment, et surtout de la question européenne et de la question turque, mais la question de la Constitution européenne. Mais avant, j'aimerais bien, Bruno, que vous nous disiez si quelle réflexion vous inspire l'espèce d'invraisemblable mobilisation, raffut médiatique. Entretenu autour de ce qui s'est passé en Asie du Sud.
Je suis très perplexe, on ne peut pas passer sous le silence la mort d'autant de personnes. Je ne suis pas sûr que s'il n'y avait pas eu des milliers de touristes occidentaux, on en eût autant parlé. Ça, c'est peut-être une première réflexion.
Est-ce que vous croyez
Il est certain que certains sites comme Phuket, fort beau d'ailleurs, bon, le fait qu'il y ait eu beaucoup de touristes occidentaux nous a rendu sans doute, c'est après tout, hélas, très humain, plus proche la mort de ces malheureux. Enfin, je crois que c'est le mystère du mal.
Il y a une autre dimension, et ça, enfin, je vous livre ma réflexion, c'est que, bien sûr, s'il n'y avait pas eu de touristes, on aurait certainement beaucoup moins parlé de cette catastrophe. La preuve, c'est que le tremblement de terre du Sichuan, il y a combien, 10 ans ou 15 ans, je ne sais plus exactement, je ne sais même plus la date, il y a eu 350 000 morts, on n'en a pas parlé du tout. Pas du tout. On a annoncé 350 000 morts, pour la fin du débat, on passe à autre chose. Mais il y a pire que ça, c'est que s'il n'y avait pas eu de touristes, il y aurait eu beaucoup moins de morts. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là, les villages de pêcheurs qui étaient échelonnés le long de la côte, ils étaient très très peu habités. Ce qui a fait venir les populations local, c'est l'affluence des touristes. Donc les touristes ont créé sur un territoire où les habitants naturels savaient très bien qu'on ne pouvait pas vivre parce que des raz-de-marée s'en produisent deux fois par siècle là-bas au minimum, et ils savent très bien que ce sont des endroits dangereux, comme les habitants d'ailleurs de Vaison-la-Romaine savaient de toute éternité qu'il ne fallait pas habiter à certains endroits de ce village, parce qu'on risquait d'être emporté. Mais le fric a fait que le prix du terrain a atteint de tel niveau qu'on a construit sur les endroits inondables et on a vu le résultat. Et bien là-bas, c'est pareil. Quand on construit des hôtels de centaines de chambres pour recevoir des centaines de touristes, on fait venir des milliers d'esclaves pour les servir, ces gens-là. Et ces esclaves qui habitaient dans des paillotes il y a quelques dizaines d'années, ils auraient été emportés, ils auraient été bousculés par l'eau, mais ils n'auraient pas été découpés en morceaux par des tôles ondulées, parce qu'ils ne fabriquaient pas de tôles ondulées à cette époque-là. Tout le matériel de broyage qui a tué des centaines de gens ou des milliers de gens, c'est du matériel qui est lié au tourisme. C'est le tourisme qui a tué là-bas. On dit que c'est une catastrophe humanitaire. C'est pas vrai. C'est un phénomène naturel qui a toujours existé et qui d'un seul coup s'est transformé en catastrophe humaine parce qu'on a créé toutes les conditions de transformation d'un phénomène naturel en catastrophe.
Sans doute, mais ça pourrait aussi se produire sur les plages de l'Atlantique ou de la Méditerranée.
Mais absolument, et ça se produira un jour, et ça se produit dans les villages des Alpes où on construit dans les couloirs d'avalanche. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui on nous dit le plus urgent c'est de reconstruire parce qu'il faut ranimer le tourisme là-bas. Autrement dit, on vous a tué une fois, dépêchez-vous de revivre pour qu'on puisse vous tuer une deuxième. C'est quand même fabuleux. Personne ne dit ça. En plus, c'est un marché formidable. Enfin, je sais pas ce que moi je suis ahuri de voir de quelle façon cette collecte de fonds se produit sans aucun contrôle. On nous a montré à la télévision des gosses qui vont avec des boîtes à chaussures frapper aux portes des gens en disant « Donnez, c'est pour le tsunami ». Alors on voit les braves gens, ils disent « Bouge pas ma gamine », ils vont dans la boîte à biscuits qui contient la monnaie de la journée, ils sortent un billet de 2 euros, le mettre. Personne ne sait si la gosse va pas aller s'acheter.
C'est sûr,
C'est n'importe quoi, je
veux dire. On ne peut pas s'indigner non plus complètement qu'il y ait une manifestation de pitié à l'égard de gens qui sont dans une position aussi difficile. Il vaut mieux que... J'ai connu des émotions plus malsaines que celles-là, certainement attisées par les médias. C'est pour ça que je suis porté à une indulgence peut-être excessive. Mmh.
Ça m'accable. Je trouve que c'est d'une tristesse de voir les Français, le peuple le plus spirituel du monde, paraît-il, réagir comme des veaux, comme des bœufs. Alors, ils apportent leur petit fric. Alors, on voit bien qu'il y a en plus, il y a un côté vicieux là-dedans. Il y a le fait que, avec ce fric, on achète la tranquillité d'esprit. On se donne bonne conscience. Tiens, pour 20 euros, je vais m'acheter une bonne conscience.
Oui, mais il y a des gens que le malheur des autres laisse parfaitement indifférent. Est-ce que ce serait mieux? C'est difficile. C'est très difficile.
Moi, ce que je veux dire simplement, puis je vais parler trop longtemps, mais c'est que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de ne pas faire le malheur des autres. Parce qu'encore une fois, si on n'était pas responsable de ce malheur, on pourrait dire mobilisons-nous pour les aider. Mais c'est nous qui avons créé ce malheur, avec tous ces porcs qui vont en Thaïlande pour se taper des petits-enfants. Hein, parce qu'il faut quand même pas oublier que, peut-être pas une majorité, mais enfin beaucoup de gens qui vont là-bas, ils y vont pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec le tourisme de découverte et culturel. Hein. Bon. Donc ça fait des années que ça dure. On le sait très bien. Au point que maintenant, comme il y a des orphelins là-bas, on nous dit attendez, il faut surtout pas adopter les orphelins parce que. Et on a appris hier encore que ça y est, ils commencent à vendre des enfants. Internet, il y a des listes d'enfants à vendre. Mmh. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette société de. C'est monstrueux ce qui est en train de se passer. Moi, je suis abasourdi de voir que personne n'ose dire ça. Tout le monde est totalement paralysé par cette espèce de terreur de pas dire comme tout le monde « Ah, c'est affreux ». Bon, quand on a dit ça, on a dit « C'est affreux ». Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on va envoyer du fric. Et quand j'entends que la France va envoyer 35 milliards d'euros, alors qu'on n'est pas foutu de loger les clochards français, on va envoyer 35 milliards d'euros pour reconstruire des hôtels de luxe pour des tripoteurs de petits garçons à 10 000 km d'ici. Mais c'est du délire, ma parole.
Tout dépend de l'usage que sera fait des crédits, c'est évident.
Bah ça, on prend un pari, hein. Bref, enfin. Alors, revenons venons-en, si vous voulez, à l'Europe maintenant. J'ai déjà vu des affiches du Front National.
Oui.
Je garde la France.
Oui. C'est une formule pas ambiguë, elle est très claire, mais ambivalente volontairement.
Oui, oui.
Parce que je garde la France, ça veut dire deux choses. Ça veut dire je garde la France comme une sentinelle parce qu'elle est chère à mon cœur et que j'ai à défendre quelque chose qui est menacé. Et ça veut dire aussi je garde la France parce que je préfère garder le cadre national et qui est, à des échelles très diverses, le cadre le plus large dans lequel il existe une vérité. Il peut exister, il n'existe pas toujours, il existe de moins en moins chez nous, mais il peut exister une véritable communauté intellectuelle, morale, spirituelle, matérielle aussi, puisqu'on parlait de la solidarité. Il est certain que la solidarité s'exerce davantage et qu'elle est plus facilement, elle est mieux utilisée, elle est plus facilement contrôlée à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale, c'est très clair. Il est certain que, je crois, au regard pour ceux d'entre nous qui sommes croyants de la Providence, toute nation a sa vocation. Aussi bien le petit Luxembourg que l'immense Chine et que bien sûr la France. Aucune d'entre elles n'est tout à fait identique aux autres, mais elle est encore un cadre aussi, et ce n'est pas sans importance, où l'on peut, où le peuple a la possibilité de connaître ses dirigeants, de savoir ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, et éventuellement, dans un certain nombre de pays, comme le nôtre, au moins théoriquement, de les révoquer. Faculté, malheureusement, dont ils n'usent pas ou dont ils n'usent pas bien. Mais c'est un autre problème. Par conséquent, je garde la France, ça veut dire je garde le cadre national, et dans ce cadre national, évidemment, je garde tout le patrimoine spirituel, matériel, de civilisation qui a été accumulé au cours des siècles, qui en fait la richesse et l'éminente noblesse. Et ceci face à une double offensive, c'est-à-dire celle d'une part de la Constitution européenne et d'autre part celle de l'adhésion de la Turquie. Les deux problèmes étant, à notre avis, parfaitement liés, quoique ne se recoupant pas tout à fait. On pourrait avoir le problème de la Constitution européenne sans l'adhésion de la Turquie et l'adhésion de la Turquie sans la Constitution européenne. Mais je crois que ces deux phénomènes se conjuguent et en réalité multiplient leurs effets l'un l'autre. Il est certain que c'est par exemple la Constitution européenne qui va donner à la Turquie une place prédominante en Europe, alors que dans un cadre institutionnel différent, elle ne l'aurait pas nécessairement.
Mais vous n'avez pas l'impression que cette constitution européenne, comme d'ailleurs Schengen et comme la constitution, comme le vote au suffrage universel de la constitution de 58, vous n'avez pas l'impression que ça, c'est une escroquerie formidable? Ça met en lumière le caractère d'escroquerie formidable de la démocratie. Comment est-ce qu'on peut demander à des gens qui sont à peu près incapables de lire Métro ou 20 minutes de se taper la constitution française et d'avoir une opinion sur la constitution, la constitution de Giscard, d'ailleurs à laquelle personne ne comprend rien, même ceux qui l'ont rédigé, puisque les interprétations sont différentes.
Ce n'est pas un texte simple, oui.
Bon, selon la langue.
Je dois rendre cette justice à Giscard, dont j'ai combattu, dont je continue à combattre à peu près toutes les positions politiques, et qui, à mon avis, a eu, comme président de la République, une influence détestable sur la marche du pays et sur l'évolution surtout de la société et des mœurs. Mais je dois rendre cette justice à Giscard que c'est relativement plus clair ou moins obscur, par exemple, que le traité de Maastricht.
Oui, Maastricht, oui. Oui, c'était difficile de faire pire. Hein.
C'est vrai.
Maastricht, c'est vrai. Moi, j'ai évidemment pas lu le traité de Maastricht, mais j'ai lu les passages qu'on m'a signalé que des héros
avait exhumé pour mon compte. Et je veux dire que là, il y a des choses quand même où on voit.
Alors, c'est très vrai. Ce que vous dites est très vrai. C'est très obscur. Alors, c'est la raison pour laquelle il nous appartient en tant que formation politique. Après tout, c'est notre légitimité d'essayer de l'expliquer. Et on va pas l'expliquer ici en quelques minutes, mais nous avons entrepris une grande tournée, précisément, dans tous les départements de France, avec la tenue de conférences de presse et aussi la réunion de nos adhérents, de nos sympathisants et de ceux qui ne le sont pas ou pas encore, pour précisément expliquer en quoi ça consiste, expliquer en quoi les deux problèmes sont liés, car encore une fois, il y a une fantastique escroquerie qui voudrait découpler l'adhésion de la Turquie de la Constitution européenne. On dit aux Français, écoutez, votez la Constitution et votez-la sans arrière-pensée, parce que de toute façon, on vous reconsultera sur l'adhésion de la Turquie. Ce qui est évidemment un mensonge, et en réalité, là, les Français doivent savoir que la consultation, entre guillemets, sur la Constitution, si imparfaite qu'elle soit, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point, elle tiendra lieu aussi d'approbation de l'adhésion de la Turquie. Jamais on ne consultera le peuple français directement sur l'adhésion de la Turquie, ça c'est certain. Ceux qui ne veulent pas de l'adhésion de la Turquie doivent par conséquent dire non au référendum constitutionnel. Ça ne suffira sans doute pas, je ne me fais aucune illusion sur les procédés pseudo-démocratiques qui sont utilisés à l'heure actuelle, mais je pense que toute bataille doit être livrée. Voilà. Et que on ne sait jamais. Si véritablement de grands pays comme la France disent non, eh bien, ça peut changer peut-être au cours des choses.
On avait l'impression dans le discours des vœux de Chirac qu'il avait cette inquiétude, parce qu'il a insisté plusieurs fois sur le fait que si les Français repoussaient la Constitution européenne, ça serait d'une gravité dans ses conséquences absolument effrayantes.
Donc, malheureusement, il faut bien reconnaître qu'institutionnellement, il a tout à fait tort, évidemment, parce que si la Constitution européenne n'est pas votée, c'est pas ça qui va résoudre les problèmes du pays. C'est même pas ça qui va changer beaucoup de choses en Europe. Ça évitera sans doute que la situation n'empire, mais on sera ramené au traité de Nice, dont je rappelle qu'il a été conclu sous les auspices de Jacques Chirac, d'ailleurs, et qu'on s'en était gargarisé à l'époque, puisque c'était à l'occasion du... Si on appelle ce traité le traité de Nice, qui est celui qui est en vigueur à l'heure actuelle, qui s'est superposé à Amsterdam, lequel est venu après Maastricht, tout cela juridiquement étant autant de révisions du traité de Rome... Enfin, la chose n'est pas très simple, mais si ce traité a été conclu à Nice, c'est parce qu'à ce moment-là, la présidence du Conseil européen, la présidence de l'Europe, était assurée par la France, et notamment par Jacques Chirac, qui avait convié ses homologues, chefs d'État et de gouvernement, à Nice. Mais psychologiquement, ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut redonner espoir aux défenseurs de l'indépendance nationale, de ce qu'on appelle, d'un mot que j'aime pas beaucoup, parce que je trouve un peu réducteur, les souverainistes, enfin, ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Ça peut être quand même le grain de sable qui bloque la machine à broyer les peuples. Voilà. Et ça peut inverser le cours des choses. Et il est certain que maintenant, dans une Europe à 25 qui est destinée à devenir 27-28 avec la Turquie, eh bien, s'il y a l'opposition de 3-4 grandes nations, on est dans une situation de blocage institutionnel dont je n'hésite pas à dire que, pour ma part, je l'appelle de mes voeux.
Est-ce que vous croyez, comme certains le disent, que l'adoption de... Enfin, en ce qui concerne l'enchaînement presque fatal de l'adoption de la Constitution et de l'entrée de la Turquie, vous venez de donner votre avis, mais est-ce qu'après, il vous paraît vraisemblable, comme certains le disent, que Israël, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Libye peut-être, puisque maintenant
c'est
un type formidable.
C'est évident. Moi, je me souviens, au sortir d'un débat où nous étions presque plus accablés que de coutume, ayant vu l'attitude du groupe dit démocrate chrétien, dans lequel il y a peut-être quelques démocrates, mais en tout cas pas beaucoup de chrétiens, la main dans la main avec les socialistes, faire passer des choses incroyables sur le plan moral, sur tous les plans. Et Jean-Marie Le Pen m'avait dit, si encore il détruisait nos nations pour construire une nation européenne. Le rêve de la chrétienté médiévale,
grand Occident,
de l'Europe carolingienne, etc. Nous serions contre, parce que nous pensons que c'est une utopie. Mais au moins, ça aurait encore un semblant de justification. Mais ils ne veulent même pas ça. C'est-à-dire que dans cette construction européenne, on parlait tout à l'heure de la catophobie, tout ce qui fait le patrimoine légitime des Européens sur le plan culturel, sur le plan spirituel, leur est objet d'horreur. Et la seule philosophie qui compte, c'est celle des droits de l'homme. Celle des droits de l'homme pour tout le monde, sauf pour les ennemis des droits de l'homme, bien entendu.
Et c'est ça qui est très frappant, c'est qu'on retrouve la problématique de la laïcité.
Tout à fait.
Et Paul-Marie Couteau avait intitulé, à mon avis, de façon très, très fine, un article dans le Figaro. L'Europe est-elle un club anti-chrétien, puisque on reproche à l'Europe de tendre à être un club chrétien, on voit pas trop pourquoi, parce que dans les faits, finalement...
C'est un club anti-chrétien, on l'a bien vu à propos de l'affaire Boutillon, où la nomination des commissaires, où seul Boutillon a été le commissaire italien Boutillon, qui n'est pas de nos amis politiques, qui aurait été un détestable commissaire, je le dis tout de suite, mais qui a osé formuler un jugement moral assez élémentaire sur l'homosexualité, alors qu'on lui demandait.
Et qui a été poussé, je crois, par les journalistes.
On lui a demandé de questionner. Vous êtes catholique, oui. Bon, et alors vous pensez que l'homosexualité n'est pas à mettre sur le même plan? Ben oui, bien sûr, oui. Ah bon, ben voilà, donc c'est bien la preuve.
Il a d'ailleurs ajouté, mais ça, c'est mon idée personnelle.
Oui, c'est mon idée personnelle. Je n'en ferai aucune mandat dans mon action politique. C'est pour ça qu'il ne faut pas pleurer sur Boutillon. Hein. Bon. Mais
c'est un bouteillon,
chrétien, mais enfin,
non, mais qu'un démocrate chrétien soit éliminé par le jeu de la démocratie, ça a quelque chose d'assez saignant, je trouve, relativement sympathique.
C'est dans l'ordre des choses. Mais en revanche, par exemple, l'ancien communiste stalinien, le Kovács, le Hongrois, dont nous avons vu des photos en uniforme militaire de la jeunesse communiste, et dont nous avons sorti des discours qui applaudissent dans les années 70, à l'écrasement de la révolution de Budapest, de l'insurrection de Budapest, etc. Bon, celui-là, c'est passé comme une lettre à la poste. Ouais. Il n'a pas été. Il y a deux ou trois mauvais esprits dont nous sommes qui l'ont signalé, mais c'est tout.
Je dirais que c'est un grand classique. En ce moment, on nous bassine tous les jours avec ce pauvre Pinochet, 91 ans, qui veut absolument coller en tôle pour qu'il crève dans une ergastule, alors qu'il n'y a pas un responsable des boucheries bolcheviques depuis 70 ans qui a fait une demi-journée de prison.
À commencer par en Amérique latine. Parce qu'enfin, que ce soit les généraux argentins ou que ce soit Pinochet, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Ils sont arrivés là après des mois ou des années de tueries, d'attentats, de subversions marxistes qui se targuaient d'ailleurs de faire usage de la force et de la violence. Que je sache. Alors, en ce qui concerne l'adhésion d'autres États, il est évident que la Turquie, c'est le cheval de Troie. Si on prend le cas d'Israël, par exemple, la première fois que l'idée de l'adhésion d'Israël a été lancée, elle a été lancée par un groupe, je ne dirais pas folklorique, parce qu'ils sont en complet veston et en cravate, qu'on appelle les libéraux italiens, de Marco Pannella, n'est-ce pas, qui sont les anarchistes bourgeois, si on veut. Et c'était, ils sont d'ailleurs paradoxalement totalement alignés sur les positions de la CIA. C'est assez curieux. Et ils sont très pro-israéliens, c'est leur droit. Et par conséquent, ils avaient lancé l'idée de l'adhésion d'Israël. Bon. Mais c'était un groupe tout à fait marginal et minoritaire. En revanche, par exemple, aujourd'hui, c'est pratiquement officieux, parce qu'on ne le dit pas, on parle d'abord de la Turquie, mais il est évident que c'est à l'ordre du jour, et j'en veux pour preuve le fait que Berlusconi, qui ne passe pas pour un extrémiste, lorsqu'il est devenu à son tour président du Conseil italien il y a à peu près un an, 18 mois, dans son discours d'intronisation au Parlement européen, qui a été occulté par un incident médiatique qu'il a eu avec un député socialiste, Schulz, qui l'a traité de capot de camp de concentration, qui d'ailleurs allait assez bien à Schulz, il faut le reconnaître.
C'est rigolo.
Mais ça a occulté complètement le fond du discours de Berlusconi, cet incident ridicule, et Berlusconi a officiellement demandé l'adhésion d'Israël. Et il est clair que cela mettrait évidemment l'Europe en première ligne dans le conflit du Proche-Orient, du Moyen-Orient, et qu'il y aurait ensuite d'autres États comme le Maroc qui avait déjà autrefois frappé à la porte, comme l'Égypte, qui vit essentiellement des subsides des États-Unis et que dont les États-Unis pourraient vouloir se débarrasser, en tout cas, ce fardeau financier sur l'Europe. Ce sont des États d'ailleurs parfaitement estimables, dans lesquels nous n'avons rien. Moi, je tiens à préciser que j'étais il y a 2 ans en Turquie. J'étais reçu par des personnalités politiques turques de tous bords, avec Janine Le Pen, l'épouse de notre président, et nous ne sommes pas les ennemis de principe de la Turquie. Mais nous considérons que, évidemment, faire entrer des pays qui ne sont pas européens, et en l'occurrence des pays musulmans, avec une démographie galopante, dans le cadre d'un système de libre circulation et de libre établissement des personnes, dans les conditions de faiblesse démographique, intellectuelle et morale de l'Occident, c'est absolument suicidaire. C'est-à-dire très logique, on voit vraiment tout les paramètres du suicide collectif de civilisation.
La renonciation à notre
spiritualité, le déclin démographique encouragé d'ailleurs, organisé dans nos hôpitaux par l'avortement, etc., demain par l'euthanasie, et puis l'appel à des populations extérieures, l'ouverture à leurs idéologies, à leurs religions, et l'organisation par nous-mêmes, par nos propres élites, de la conquête et de la submersion de notre pays. C'est un cas assez extraordinaire quand même. Les Incas avaient au moins beaucoup d'excuses. Les Incas, ils avaient en particulier l'excuse de croire que ceci leur était imposé par des prédictions. Et puis ils avaient une civilisation qui n'était pas sans faute et sans crime, mais pour nous, c'est véritablement terrifiant d'assister à ça. Alors, notre nom, notre double nom, deux fois nom, à la Constitution et à l'adhésion de la Turquie, c'est une opération de résistance. Ça marchera ou ça ne marchera pas. Ça peut marcher. Si on arrive à faire comprendre à nos compatriotes que le nom à la Constitution, c'est un blocage aussi pour la Turquie, ça peut marcher. Et le pouvoir, comme vous le disiez tout à l'heure, en a extrêmement peur.
Avant de passer aux questions des auditeurs, qui sont nombreux, je crois, non, Victoria?
Oui, il y en a beaucoup. Ça se recoupe un peu.
Ah ben, comme toujours, oui.
Mais répondez-y.
Je voudrais qu'on évoque assez brièvement ce qu'on a appelé depuis maintenant plusieurs mois l'affaire Golnisch. Ça en est où, cette farandole carabistouillesque?
C'est une affaire assez extraordinaire, il faut le dire. Quand on vit cela soi-même, c'est assez étonnant. Étonnant dans plusieurs sens, d'ailleurs. On voit des solidarités qui se manifestent, venant quelquefois de gens dont on pensait qu'ils étaient indifférents, voire adversaires, et que l'honnêteté intellectuelle ou morale pousse à prendre plutôt votre défense. C'est quand même pas l'immense majorité. Hein,
Ça se saurait,
hein, c'est le cas. Moi, je salue,
non, mais si c'était la majorité,
Par exemple, à Lyon, dont le directeur a dit, qui est un adversaire politique depuis 30 ans, a dit, ben moi j'étais là, j'ai entendu ce qu'a dit Golnisch, on ne peut pas quand même lui faire dire le contraire de ce qu'il a dit. Bon, il y a en revanche l'attitude de M. Rioufol dans le Figaro, par exemple, qui, je ne sais pourquoi, a cru nécessaire d'ajouter sa petite pierre à ma lapidation. Je vais lui répondre courtoisement comme d'habitude. Non, c'est un procès en sorcellerie, scandaleusement actionné par le recteur. Ce qui me nave, me peine, c'est la procédure universitaire. Je ne crains pas le procès pénal, je ne crains pas d'aller en prison pour mes idées, etc. Mais je dois dire, le fait qu'on instrumentalise contre moi, à l'occasion, après tout, d'une conférence de presse que j'ai faite en tant que parlementaire dans ma permanence électorale, et où j'ai pris la défense de ce qui était un problème politique déjà largement évoqué dans tous les journaux, pas seulement par des universitaires. J'ai pris la défense de mon université injustement persécutée de façon scandaleuse depuis des années, avec la complicité active d'un certain nombre de salopards qui sont au groupe Persan, au Progrès ou à Lyon Figaro, et que je sois traîné devant les juridictions disciplinaires, pour cela, ça me paraît mirobolant. Alors, je suis interdit d'accès à mon université. D'abord, on a suspendu mon cours pour un mois, ce qui était le délai maximal. Et puis ensuite, au bout d'un mois, ça allait reprendre. Mmh. Et oui, alors là, c'est terreur. Alors on a dit, ben non, on prolonge ça, c'est tout à fait illégal. Écrivez au recteur Morvan votre indignation, si vous en avez la possibilité. Et alors, j'attaque cela, évidemment, devant le Conseil d'État.
Mais vos étudiants, ils n'ont plus d'enseignement, là.
Ah, j'ai des témoignages de sympathie nombreux de la part de mes étudiants. Alors, j'ai créé un site internet qui s'appelle lecourscontinu.com et sur lequel on trouve mes cours. Mais ça a été évidemment un travail assez considérable que de les coucher par écrit, même si j'avais des notes en un laps de temps aussi court. Alors j'ai mon cours de droit international, mon cours de civilisation japonaise, mon cours de voilà. Bon, j'ai mon lexique juridique, etc. Voilà. Bon, c'est encore très imparfait. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de fautes de frappe, encore des. Bon, c'est. Mais enfin, c'est mieux que rien. Et puis il y en a un certain nombre que j'ai créé une ligne téléphonique. Je m'en entretien avec eux au téléphone ou à mon domicile ou dans des lieux privés. Et puis alors donc j'attaque la décision par la voie du référé en Conseil d'État audience le 15 janvier. Et j'espère, c'est très difficile d'obtenir en droit administratif, vous le savez, un référé. Je suis admirablement défendu, notamment par Maître Valran de Saint-Just. Je remercie aussi Marcel Secadi, le service juridique du Front National, pour ses idées, ses suggestions. Et puis d'autres avocats lyonnais qui m'aident beaucoup. Il va y avoir un comité de juristes qui, au-delà de mon cas personnel, qui a peu d'intérêt, enfin qui en a beaucoup pour moi, mais va demander l'abrogation des lois liberticides, c'est-à-dire les lois qui, sous prétexte de lutter contre le négationnisme, interdisent la critique d'une histoire officielle pourtant pleine de mensonges, et notamment le rappel des crimes communistes, comme celui que j'ai évoqué, c'est-à-dire celui de Katyn, sous prétexte de lutter contre le racisme, interdisent de défendre l'identité nationale, sous prétexte de lutter contre la xénophobie, interdisent de réclamer la préférence nationale que tous les États du monde pratiquent en faveur de leurs ressortissants. Et depuis peu, grâce à Perben, sous prétexte de lutter contre l'homophobie, interdisent la légitime préférence pour la famille de droit naturel contre l'association de pédérastes ou les couples de lesbiennes. Par conséquent, ce comité de juristes que Maître Biagi, grande figure, héros de la Deuxième Guerre mondiale et grande figure du barreau et du Parlement, parce qu'il a été député aussi, a accepté de présider avec comme secrétaire général un docteur en droit extrêmement brillant, ami, élu régional et maître de conférence à la faculté de droit de Grenoble, qui est Hugues Petit.
Bien, ben alors, vous n'avez pas baissé les bras, je vois ça.
Non. Et le jour de ma comparution, j'irai sans doute en toge. À travers la ville, moi je ne suis pas comme les voyous qui se sortent de chez les gendarmes avec un blouson sur la figure pour ne pas être à la télévision. S'ils veulent du spectacle, on va leur en donner. Et je convie évidemment une grande manifestation qui ira pousser la chansonnette sous les fenêtres du recteur pendant que je comparaîtrai devant mes pairs. Où je comparaîtrai non pas en accusé, mais en accusateur. Et puis ensuite il y aura un procès pénal parce que le 20 octobre dernier, le 20 novembre pardon, dernier, le RTL bien informé a annoncé à 7h du matin, information corroborée par Libération et Le Monde, que le procureur de la République s'apprêtait à classer sans suite mon affaire. Après l'enquête pourtant extravagante qu'il avait ordonnée, où des journalistes ont été sommés par la brigade criminelle de venir dénoncer mes propos. Celui qui a publié d'ailleurs la même chose que ce que j'ai fait, les recensions correctes de mes propos, on lui disait, mais enfin quand même, est-ce que vous ne vous êtes pas concerté avec Gollnisch, parce que c'est quand même incroyable, vous racontez la même chose que Gollnisch. Le journaliste disant, ben oui, je raconte la même chose, que Gollnisch précise ce qu'il a dit, et moi j'ai entendu ce qu'il a dit, donc il est assez normal que cela coïncide. Bon. Et alors, et ça à 7h du matin, n'est-ce pas, RTL dit... Ils ont l'information de la veille, il y a une fuite, c'est confirmé dans Libération dans Le Monde, l'affaire Gollnisch classée sans suite par le procureur, à la suite l'enquête ordonnée par Perben n'a rien donné. À 10h du matin, Perben, qui se targue de ne donner aucune instruction au parquet, dans des cas individuels, c'est publie un communiqué dans lequel il indique qu'il veut que je sois traduit devant les tribunaux pénaux. Et il peut le faire. La loi lui permet de le faire. Mais depuis plusieurs années, les ministres de la Justice avaient déclaré qu'ils ne feraient pas d'intervention dans des cas individuels. Ils se borneraient à des instructions générales du genre il faut réprimer davantage le trafic de drogue, l'alcoolisme au volant, que sais-je encore. Bien. Et à midi, le procureur général Jean-Olivier Vieux, auquel je viens d'envoyer hier une lettre assez salée, le procureur général après la cour d'appel Jean-Olivier Vieux publie un communiqué que je cite à peu près de mémoire. Agissant sur instruction de monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, c'est-à-dire Père Benne, je donne ordre au procureur de la République de Lyon, qui est placé sous sa juridiction, de poursuivre monsieur Gollum. Autrement dit, il se couvre moralement. Sauf que hier, il a dit au Progrès que jamais le Progrès lui dit, mais quand même, c'est pas un problème pour un procureur général d'être à Lyon, ville où monsieur Père Benne va se présenter aux élections municipales.
Oui, ça tombe. Oui.
Et lui, il dit, mais je n'ai jamais reçu la moindre pression, serait-ce sur une tête d'épingle. Bah, alors, je viens de lui écrire une belle lettre que j'ai ici, dans laquelle je lui dis, monsieur le procureur général, vous n'avez peut-être jamais reçu de pression sur une tête d'épingle, mais vous en avez reçu, en tout cas au sujet de la grosse arête que je pourrais représenter dans le prochain festin électoral lyonnais. Voilà.
Il aurait même dit la baïonnette, selon la phrase immortelle. Je peux tout faire avec la baïonnette sans s'asseoir dessus. Vous pouvez poser quelques questions, Victoria, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc j'espère que vous nous avez sélectionné des questions.
Il y a aussi des commentaires
intéressants et utiles.
Monsieur Delmiche, par exemple, des millions de Français vous soutiennent.
Merci. J'en ai besoin, en plus. Hein.
Avez-vous vu le courrier publié dans la Croix d'aujourd'hui qui prend votre défense et celle de Lyon 3?
Ah non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais je vais me précipiter sur la Croix.
Donc ils ont publié votre lettre, c'est ça? C'est...
Monsieur Gollnisch, je vous tire mon chapeau. Vous-même, chef du lobby japonais en France, et vos amis, vous avez réussi à imposer votre volonté à la plupart des journalistes en France qui, comme des chiens de Pavlov, se sont mis au coup de sifflet à employer le mot tsunami à la place du mot raz-de-marée.
Brièvement, j'ai beaucoup d'affection pour le Japon et en particulier pour une japonaise qui est devenue mon épouse. Mais je ne suis pas le chef du lobby japonais en France. Hein, je le dis, que je suis régulièrement invité au Parlement japonais et où je me comporte toujours en défenseur des intérêts de mon pays, même à l'égard des représentants de ce pays que j'aime bien.
Le hobby, c'est une pièce du vêtement. Là.
Oui, lobby, oui. Voilà. Oui, que je suis tout à fait d'accord avec Serge. En français, ça se dit raz-de-marée, oui. Mais enfin, tsunami, c'est un peu particulier parce que c'est un raz-de-marée à la suite d'un séisme sous-marin, alors qu'il y a des raz-de-marée qui ne sont pas des tsunamis.
Alors, on pourrait dire en français raz-de-marée sismique, voilà, par exemple.
Tout à fait.
Quand j'entends Serge Dubéquetch sur l'effet de la solidarité des Français en les traitant de veaux, j'ai envie de vomir. Il me fait penser à un vieux chien, vilain Serge. Je suis abasourdi des propos de Serge Dubéquetch. Ses propos sont du venin dans sa bouche. Vous êtes insultant à l'égard des donateurs de Radio Courtoisie. Là, je vois pas.
Non, j'ai pas parlé de Radio Courtoisie, j'ai parlé de l'Asie. C'est pas... Il faut écouter.
Radio courte,
les
oreilles,
c'est comme les pieds, ça se lave.
N'importe quoi. Réponse vigoureuse de Serge Dubéquetch.
Asie du Sud, la population française va être coupée en deux. Les bons citoyens qui sont solidaires parce qu'ils vont donner de l'argent, et les autres qui ne donnent pas, donc qui ne sont pas solidaires, donc qui sont de droite au minimum.
Moi, je voudrais dire une chose. Vous pouvez vous abonner au Libre Journal. Je prends l'engagement formel que pas un centime ne sera versé aux diverses associations de prétendue bienfaisance qui sont en train de faire la mendicité dans cette histoire. Parce que maintenant, c'est quand même extraordinaire. N'importe quelle boîte en France, n'importe quelle boîte vous dit, si vous achetez, par exemple, dans la boulangerie, si vous achetez la galette des rois, un euro sera reversé à la Croix-Rouge. Alors, il n'y a qu'à pas... Un vrai chrétien, il se passe de galette des rois et il file les 12 euros à la Croix-Rouge. Non ? Ben moi, je vous dis, abonnez-vous au Libre Journal, pas un euro à la Croix-Rouge. Voilà.
Tout ce que dit Serge Dubéquetch est exact. La zone touchée est la zone la plus touristique. À Sumatra, il n'y avait pas de touristes.
C'est vrai.
Il y a eu 100 000 morts.
C'est vrai, il n'y avait pas de touristes à
Sumatra.
Oui, mais
ce n'est pas les mêmes conditions. J'ai pris l'exemple.
Je serais curieux de savoir, d'ailleurs, il y a un pays dont on ne parle pas du tout, qui est au fond du Golfe, c'est le Bangladesh, par exemple. La Birmanie aussi, sans doute pour des raisons politiques, mais le Bangladesh, alors que les gens, là, vivent vraiment au niveau de l'eau. Alors, c'est au fond, évidemment, du Golfe du Bengale, mais curieux qu'on n'en ait pas du tout parlé.
Le cataclysme du sud-ouest asiatique n'est-il pas une nouvelle plaie d'Égypte ?
Oui, mais pourquoi eux ? Nous sommes beaucoup plus... L'Occident, le monde occidental est beaucoup plus coupable que ces malheureux.
Vous ne perdez rien pour attendre.
C'est possible.
Rappelez-vous Nostradamus. Nice, tremblez. Pour moi, nous dit cette auditrice, tout cela correspond à l'antéchrist, c'est luciférien. Alors, une question. Grâce à nos ennemis... Du rififi chez les tradis, c'est fini. Et deuxième...
Ça, c'est pas une question, ça. Je suis désolé.
Deuxième message. Monsieur l'abbé de Tanoirne, aurait-il la bonté de nous dire à quel propos Mgr Williamson et lui employaient le mot rabiboché au téléphone tout à l'heure ? Ça, c'est un auditeur curieux.
Ah oui, je ne me souviens plus très bien. Mais on a, oui, la conversation fut longue. Ce qui est charmant avec Mgr Williamson, c'est effectivement toujours ce souci du mot juste en français. C'est merveilleux.
Il devait parler de moi, à mon avis. Tant pis.
Si le nom l'emporte, au référendum, ils feront comme avec les Danois. Ils nous feront revoter et revoter jusqu'à ce que le oui l'emporte.
Oui, mais nous ne sommes peut-être pas les seuls d'abord à voter non, et ensuite, ce sera à nous à ce moment-là de
confirmer. Et en France, ça marche pas toujours aussi bien
non,
que
on peut acheter plus facilement par des régimes dérogatoires, par des brassées de subventions mirobolantes, des États comme, le consentement de populations de petits États de 4 ou 5 millions d'habitants dont il est facile de verser la corne d'abondance, oui. Sur nous, ça sera plus difficile. Je serais presque tenté de dire malheureusement.
La libération des deux journalistes français suit de bien près l'acceptation de discuter l'entrée de la Turquie et l'abandon de la revendication du voile islamique.
Je ne suis pas certain là quand même que les deux phénomènes soient en relation, mais il serait très intéressant de savoir quelle contrepartie nous avons acceptée en échange de la libération de ces deux journalistes.
Enfin, on n'a pas versé d'argent en tout cas, puisque Raffarin nous l'a juré. Alors là, ça vraiment... Ah oui, Premier ministre qui dit quelque chose...
Au Chili, sous Allende, on a fait 10 fois plus de morts en 6 fois moins de temps que sous Pinochet. Et il n'y a aucun procès en perspective.
Absolument.
Allende en procès,
c'est très, très juste. Très, très juste, oui.
Monsieur Gollnisch, peut-il nous préciser la superficie de la Turquie qui est européenne ? Parce que tout le reste n'est pas européen. Pourquoi vouloir l'intégrer dans l'Europe ?
Oui, c'est très juste. Je crois que c'est à peu près... Je dirais un dixième du territoire turc est européen. Enfin, c'est très peu de choses. C'est équivalent de quelques départements français. Oui, la Turquie est à 90 ou 95% asiatique. J'ai pas mesuré.
Les Turcs ont une tête de pont, c'est tout.
J'ai pas mesuré, mais oui, c'est une tête de pont, oui, bien sûr. On a dit à cet égard toutes sortes d'âneries, à commencer d'ailleurs par Jacques Chirac, mais il n'est pas le seul. Par exemple, que la Turquie est européenne. Par son histoire.
Oui,
bon. Évidemment, l'histoire de la, comme le rappelait Serge tout à l'heure, l'histoire de la Turquie, c'est l'histoire des affrontements qu'elle a eus avec des pays européens et des conquêtes qu'elle a réussi, tentées, et de son lent reflux au cours des siècles, après des combats acharnés, dont les derniers en 1912 et 1918.
Dans le Libre Journal, avec la délicatesse de vieux chien qui me caractérise, de prétendre que la Turquie a quelque chose à voir avec l'Europe, ce serait, enfin que l'Europe en tout cas a des racines turques, ça reviendrait à dire que un enfant aurait quelque chose à voir avec le type qui a violé sa mère 15 ans avant sa naissance.
C'est ça.
C'est à peu près ça.
C'est à peu près ça. Oui, c'est une bonne métaphore. La réflexion la plus stupide que j'ai lue était celle de Bernard-Henri Lévy dans Le Point, qui disait mais Saint Paul venait de Turquie. Oui, c'est vrai ça, Saint Paul venait de Turquie, mais à une époque où il n'y avait pas un seul Turc en Turquie précisément. Il y avait des Juifs, il y avait des Galates, il y avait des
Grecs.
Il y avait des Grecs.
Vous me confirmez, cher Bruno, dans l'admiration que j'ai pour l'homme politique, le combattant politique, parce que vous nous avez dit aujourd'hui que vous avez lu le texte de la Constitution de Giscard, que vous avez lu Bernard-Henri Lévy. Alors là, franchement, c'est pas un métier, c'est un sacerdoce.
Oui, mais je suis moins bon que la bête tanoirne, parce que j'ai pas encore lu Sarkozy.
Ah ben oui, c'est vrai. Merci beaucoup. On va finir avec le marquis, peut-être. Si vous arrivez à laisser 2-3 minutes à l'abbé de Tanoirne pour répondre à une question que je voudrais absolument lui poser, puisque je me suis rendu désagréable à propos de la.
Du raz-de-marée
sismique. Alors voilà. Donc vous êtes allé passer les fêtes à Pékin.
Je suis resté que 5 jours, juste le réveillon du 31 décembre, qui évidemment n'a pas été aussi brillant qu'on l'estimait, parce que la règle a été dans tous les grands hôtels du monde, paraît-il, d'être un peu calme sur les festivités en fonction des événements d'Asie. Je vous dis pourquoi j'y étais, bien sûr.
Expliquez-nous ça. Voilà, parce que c'est pas le Libre Journal qui vous a payé le voyage.
Non, bien sûr. Personne me l'a payé. L'année dernière, c'était l'année de la Chine en France, et cette année, c'est l'année de la France en Chine. Il y a une dame dans Paris, qui est la baronne de Saint-Didier, qui est une dame très élégante, donc très jalousée, qui, dans sa corbeille de mariage, a trouvé une association qui s'appelait l'Association des Saints-Anges, qui a toujours existé, mais qui était un petit peu en sommeil. Et en hommage à son mari, qui est mort depuis un moment, elle a réactivé cette association, qui s'occupe d'enfants en difficulté, qui les aide dans leur scolarité, etc. Et cette dame fait comme tout le monde, elle essaye de faire des événements, de provoquer des événements qui ramènent un peu d'argent pour son association. Et avec l'entre-gens qui la caractérise, elle a réussi à faire inviter des représentants de son association pour l'inauguration de cette année de la France en Chine. Alors, moi j'étais très content d'aller là-bas. J'y allais pour la 6e fois. Je ne suis pas allé du tout dans la campagne, mais j'ai pu voir le changement considérable. Je crois que je ne connais pas Pékin comme Paris, mais je ne me perds pas dans Pékin. Et bien là, cette fois-ci, je me suis perdu parce qu'on est partout comme à la Défense. Et on sent pertinemment que dans quelques temps, on va restaurer quelques morceaux de la vieille ville, comme on a fait du Marais chez nous pour les touristes. Et puis que tout le reste, ça va ressembler à Manhattan. Alors évidemment, oui, c'est extraordinaire. C'est assez surprenant. Et aujourd'hui, de voir encore quelques pousses au milieu de la rue, ça devient inquiétant parce qu'on se dit que là, les malheureux vont être broyés. Alors, je lisais dans les journaux que c'était un des pays les plus endettés, que c'est très compliqué financièrement. Je suis pas très calé, et les pages saumon du Figaro, c'est pas mon truc. Mais il doit y avoir des mouvements d'argent colossaux quand on voit les buildings qui sortent comme des champignons. Même le train de vie apparent dans les rues de Pékin. Enfin, les gens sont bien habillés. Les magasins regorgent. Il y a Chanel, Giorgio Armani, enfin tout ce que vous voulez. Un peu comme quand on est au Gouv à Moscou maintenant. C'est la même chose. Et il y avait dans le groupe un jeune homme qui voulait absolument acheter un costume Mao, vieille réminiscence. Impossible, il faut se le faire sur mesure en soie naturelle. Giorgio Armani, 6 essayages, etc. Tu ne retrouves plus de costume Mao à Pékin. Bon. Alors, j'ai quand même cité le Libre Journal, il faut que je le dise, puisque je ne sais pas pourquoi, c'est pour partir à Jossor, ou c'est peut-être la beauté du personnage, j'ignore. Hein. En tout cas, je suis le seul qui ne parlait pas anglais dans tout le groupe, et c'est moi qu'on est venu chercher pour répondre à la télévision chinoise aux questions concernant notre venue. Alors j'ai dit que j'étais là au nom du Libre Journal et de Radio Courtoisie, j'en ai vendu un paquet. Je ne sais pas si on va avoir des abonnements en yens, mais j'ai fait ce que j'ai pu.
Pour une fois où il y aura du yens, il y aura du plaisir.
Voilà, il y aura du plaisir. Alors il y a l'aspect technique, pratique, intéressant du voyage, et puis comme je suis un petit peu un chroniqueur people, il y a aussi l'aspect rigolo, parce que quand on déplace des gens soi-disant échappé des pages du bottin mondain, on a parfois de grosses surprises. Alors ça, le voyage vu par le petit bout de la lorgnette et sous l'angle de la rigolade, je vous le raconterai dans le Libre Journal. Mais déjà, pour vous mettre en appétit, je vous signale qu'il y a une dame très très chic qui a eu un petit malaise dans un très grand restaurant et elle a vomi dans la plus belle dans le tiroir de la plus belle commode qui se présentait à sa portée, ce qui me convainc qu'il faut toujours manger des choses très jolies parce qu'on a des risques de les revoir. Peut-être pour ça que la cuisine chinoise est très colorée. Je vous raconterai aussi comment quelques dames n'ont fait que les boutiques et qu'il n'y a que le shopping qui les intéressait, tournant délibérément le dos à la Grande Muraille, etc. Puis d'une façon moins drôle, je dirais qu'il n'y a dans le fond aucune présence française. Dans l'hôtel Peninsula, dans lequel nous sommes descendus, hôtel dans lequel descend Chirac, paraît-il, enfin c'est pour situer simplement, il y a un personnel pléthoriste, un hôtel absolument fabuleux, il y a des fax dans les chambres, il y a des écrans plein là, dans les salles de bain, enfin c'est un truc extraordinaire avec un personnel pléthorique au desk, vous dites merci, qu'on prenne même pas ce que ça veut dire. Personne dans cet hôtel ne parle français, même pas le président de l'hôtel.
Alors la prochaine fois, dites Chechny.
Oui, je sais bien, mais oui, vous avez raison.
Vous avez compris.
Bien sûr, mais enfin, vous imaginez quand même que
c'est terrible.
Aucune présence française, ah, rien.
Et
rien.
Vous m'avez raconté d'ailleurs une histoire qui est extraordinaire. Vous m'avez raconté en deux mots l'histoire du château de Maison-Lafitte.
Bon, voilà. Alors ça, nous sommes coupables aussi. Il y a un milliardaire hongkongais, donc devenu chinois, qui a moins de 50 ans, qui est tombé amoureux de la France et du château de Maison-Lafitte. Tant mieux, il aurait pu tomber amoureux d'un château Tudor, et il l'a fait reconstruire absolument à l'identique et dans les proportions à 80 km de Pékin, avec les statues, le parc à la française, etc. Et nous avions la possibilité d'aller visiter cet ensemble en option. Il y avait ou un temple de Lama, comme il y en a au bois de Vincennes, ou d'aller visiter ce truc-là. Eh bien, il a fallu que je me batte avec les gens du groupe pour en trouver 4 ou 5 pour pouvoir déplacer un petit autocar, parce que ça n'intéressait rigoureusement personne. Et il y a même des gens échappés du bottin mondain qui étaient avec nous, qui savaient même pas qu'il y avait un château à Maison Lafitte, et pour faire les malins, qui avaient confondu avec le château Lafitte dans le Bordelais. C'est désespérant de conneries, ce 16e arrondissement.
Voilà. Bon, la suite dans le Libre Journal.
Ah ben, il faut reconnaître que c'est paradoxal d'aller visiter le château de Maison Lafitte à Pékin.
Merveilleux témoignage d'amour de la France.
C'est vrai, super.
Et nous,
super.
Nous aurions dû aller saluer ce monsieur qui super. Nous attendait en plus.
Ah oui.
Et qui n'a pas montré qu'il était vexé, parce qu'on ne sait pas s'ils sont vexés ou pas, mais qui aurait peut-être préféré avoir plus de 400 personnes quand on lui a
dit un
groupe de 60 personnes illustrissimes, élégantissimes et tout le fourbi.
C'est sûr.
On vient bien de toute l'Europe pour visiter le château de la Belle au Bois dormant à Euro Disney World ou l'Euro Disney machin, je sais pas quoi.
Il n'y avait pas de boutique au château de Maison Lafitte. Comment voulez-vous que ces malheureuses dames ramenassent des cravates en soie pour leur gigole-pince?
Bon, alors ça commence bien. Enfin, ça continue bien. Hein bon, merci, Marquis, d'avoir fait court, mais de nous avoir fait miroiter ce que vous nous raconterez par ailleurs.
Papier, voilà.
Alors, monsieur Abetanant, je voudrais terminer quand même avec cette histoire qui... Je suis surpris des deux réactions négatives à mes propos, car c'est pas des propos de haine, c'est simplement des propos de bon sens. Est-ce que vous pouvez arriver à vous vider la tête, je parle pas à vous, monsieur Labbé, mais à ses auditeurs, est-ce que vous pouvez arriver à vous vider la tête, passez-moi l'expression, de la merde que la télévision y dépose à longueur de journée? Essayez de faire fonctionner vos petites cellules grises, vous allez voir, c'est amusant, et des fois on fait des découvertes étonnantes quand on se contente pas de laisser penser les autres à sa place. Et cette histoire est un véritable assassinat culturel, c'est un assassinat ethnique. On est en train de transformer une région du monde en une espèce de gigantesque bordel pour détraquer, parce que franchement, aller poser ses fesses sur le sable, faire 24 heures d'avion pour une semaine, poser ses fesses sur du sable, alors que du sable, on en a plus savoir qu'en faire le tout le long des côtes françaises. Des gens qui connaissent même pas l'Ariège et qui veulent aller découvrir Phuket, dont j'avais jamais autant entendu parler, d'ailleurs. Je trouve d'ailleurs le nom un peu... Enfin bref.
Il y a une annexe sur les Champs-Élysées.
Hein. Oui. Bien. Mais il y a autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que... On nous a expliqué à longueur d'antenne, à longueur d'image, qu'on réunissait les gens dans des temples bouddhistes. Il y a eu des cérémonies qui ont été organisées là-bas, des cérémonies de prière, réunissant, nous disent les journalistes de la télévision, que je ne peux pas soupçonner de raconter n'importe quoi, réunissant des musulmans, des bouddhistes et des chrétiens. Alors les chrétiens, naturellement, il doit y avoir tout, absolument tout, et le contraire de tout. Mais Donc ça, c'est véritablement la réalisation, à la faveur de cet événement, d'une prophétie de l'abbé de Nantes, qui était le Masdu, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle, qu'il avait annoncé dans les années 60, hein, au début des années 60, en disant voilà ce qui va se passer.
Je crois que c'est effectivement, en tout cas pour le prêtre que je suis, le fond du problème que pose la laïcité. Hein, c'est-à-dire que la laïcité devient une espèce de religion superposée à toutes les autres religions, et qui est en plus une religion purement philosophique, faite de dogmes extrêmement flous et peu contraignants, mais qui doit être comme un préalable à toute foi religieuse chrétienne et à toute profession religieuse de quelque religion que ce soit. Et effectivement, lorsque les musulmans, les bouddhistes et les chrétiens communient mystérieusement dans une cérémonie, ils communient à quoi ?
Oui, déjà.
Eh bien, moi je pense qu'ils communient à quelque chose. Ben oui. Ils communient à la religion de l'homme, qui est finalement le préalable indispensable et qui doit être reconnu par tous. Et c'est pourquoi, si vous voulez, cette question de la laïcité a quand même des relents de guerre de religion, il faut bien le dire. On est dans une perspective historique longue, comme nous le rappelait Christophe Mailleux, et dans laquelle, finalement, c'est une espèce de super-église rationaliste qui a été essayée de se substituer à l'église catholique. Je pense qu'on peut dire cela. Et quelque part, ce qui doit tous nous réunir aujourd'hui, eh bien, c'est ce qui anime tous ceux qui sortent des loges, toutes tendances confondues, c'est la religion humanitaire. Hein. Et refuser cette religion humanitaire, eh bien, ça tend à devenir un crime. Et alors, je termine là-dessus, mais Tocqueville avait bien vu une chose étonnante, c'est que dans la démocratie en Amérique, il disait qu'il n'y a jamais eu autant de liberté, et pourtant, il n'y a jamais eu autant d'unanimité. Et autant l'Inquisition, disait Tocqueville, n'a jamais réussi à empêcher les libelles factieuses ou immoraux, autant en Amérique, c'est Tocqueville qui parle dans les années 1830, sans avoir recours à l'Inquisition, on crée une conformité mentale absolue, et ce que l'Inquisition n'a pas réussi à faire, dit ce libéral de Tocqueville, eh bien le libéralisme le fait, la pensée unique. Et je dirais, cette pensée unique, on en parle beaucoup en politique, mais je crois qu'il est du devoir des prêtres que nous sommes d'en parler aussi en religion, parce qu'en religion aussi, il y a une pensée unique préalable à toute option. Alors la foi devient une option, mais ce préalable, lui, il n'est pas optionnel. Il est bientôt imposé sous peine de condamnation en justice.
Je crois qu'il y a un autre aspect, et je le dirai très rapidement, c'est le fait que dans toute l'histoire, les religions sont nées d'un événement considérable. Et là, le Masdu, qui est un chaos spirituel, est en train de naître d'un chaos naturel. C'est ce qui me frappe beaucoup, c'est que un des effets de cette catastrophe, ça a été de propulser dans tous les médias cette espèce de religiosité de l'humanitaire, où les curés sont habillés en pompiers et où les sacrements sont distribués sous la forme de bouteilles d'eau minérale et de sacs de riz.
Et où, ce qui ne gâche rien, la charité devient un business, comme disait Kouchner. Parce que Kouchner l'a quand même écrit. Il a fait un livre qui s'appelle « Charité business » et c'était au premier degré. Il n'y avait
si
pas la moindre critique.
Si ça rapporte, c'est mieux.
Et où les dernières consolation de la religion deviennent les secours de psychologues.
Oui, les cellules de soutien
psychologique. Voilà, les cellules de soutien psychologique. Et ça, c'est maintenant systématique, pas seulement dans ce cas-là.
Allez, merci à tous. Oui. Nous avons accompli brillamment ce parcours d'une heure et demie. Enfin, bruyamment en tout cas, c'est certain. Merci Bruno Gollny.
Merci Serge.
D'avoir passé ce long moment avec nous. Merci Monsieur l'abbé de Tannouarn d'être venu au Dévoté. Merci Christophe Mailleux d'être venu nous parler de votre colloque. Merci Monsieur Marquis de nous avoir fait passer un petit moment en Chine.
Rendez-vous dans le livre journal papier.
Merci ma chère Victoria d'avoir assuré comme toujours l'intendance. Et puis merci ma chère Edouard.
Comme la patronne me regarde, je redonne l'adresse. La patronne nous regarde. 4 places France Lys pour les abonnements.
À la semaine prochaine, que Dieu nous garde.
Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 5 janvier 2005 de 18h à 21h, en différé jeudi 6 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Bonsoir chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour ces chroniques de la vieille Europe, toujours en compagnie de mes trois complices habituels, Xavier Van Lier, rédacteur en chef de Relève Politique, Grégoire Gambier, journaliste, et Patrick Péel, journaliste également. Avant toute chose, chers auditeurs, nous vous présentons bien évidemment nos meilleurs vœux pour l'année 2005, et puis nous les présentons de manière plus large, sans faire dans le dithyrambique, mais de manière plus large à l'Europe des peuples et des identités, qui a été bien mise à mal ces derniers événements. On a parlé et on va parler de la Turquie, on a parlé et on va parler de l'Ukraine, on va parler de plein de choses encore. Mais évidemment, nous ici, dans cette émission Chronique de la vieille Europe, vous le savez, nous attachons beaucoup d'importance à cette Europe qui reste à construire et toutes ces voies du possible qu'il faut explorer pour donner enfin à notre continent une puissance, la puissance qu'il mérite. Alors aujourd'hui une émission un petit peu différente de celle de d'habitude, puisque nous avons fait le choix pour cette première émission, et puis c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'émission depuis le début du mois de décembre, donc nous avons fait le choix de ne pas accueillir d'invités pour prendre le temps de parler des différents sujets que nous effleurons peut-être un petit peu rapidement dans chacune des premières demi-heures. Donc nous aurons une heure d'actualité géopolitique française et européenne, mais nous gardons bien évidemment la dernière demi-heure consacrée à une actualité davantage culturelle sous la houlette de Patrick Péel. Alors l'actualité immédiate, ce sont les vœux du chef de l'État aux forces vives de la nation. Alors dans cette cérémonie un petit peu imposée, il y a toujours, surtout quand c'est Chirac qui s'exprime, il y a toujours un petit peu de tout. Cette année, on a pu trouver peut-être une ou deux choses intéressantes, notamment la volonté de parler des grands projets industriels, de construire une politique industrielle pour la France de demain. Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau dans le vocabulaire chiracien, et on pourra peut-être faire le rapprochement avec les bonnes nouvelles de l'année 2004 sur le sujet, Grégoire Gambier?
Oui, tout à fait. Mais j'ajouterais, bien évidemment, il n'était que temps de se préoccuper de cette désindustrialisation, qui a marqué la dernière décennie de la France et une partie de l'Europe. Phénomène qui a été souhaité et accompagné par un certain nombre de décideurs sous l'angle, on ne peut pas éviter les les transferts de main-d'œuvre et d'activité, mais nous, notre spécialité, c'est la forte valeur ajoutée, ce n'est pas grave, on va se venger sur les services, c'est comme ça qu'on innove, etc. On se rend bien compte, au bout de 10 ans, au moins, en tout cas, de façon très cruciale, que ces raisonnements à courte vue étaient bien évidemment faux, puisque sans base industrielle, il n'y a plus d'innovation et de recherche possible. Et donc après nos industries lourdes, ce sont bien évidemment les chercheurs qui ont suivi le mouvement. Bref, toujours est-il que lors de ses vœux, effectivement, Jacques Chirac s'est fait l'écho de cette préoccupation nouvelle dans les sphères politiques et économiques françaises. Nouvelle parce que tout simplement, ça s'est cristallisé l'année dernière, et plus particulièrement depuis que Hervé Guémard est ministre de l'économie et des finances, puisqu'il porte le flambeau de ce volontarisme économique de façon très flamboyante, c'est le cas de le dire. Donc voilà, ce qu'on retiendra peut-être aussi, c'est une fois de plus un décalage, si ce n'est une rupture, avec le discours et la posture d'un Raffarin, par exemple, qui avait fondé toute sa communication de l'année dernière, bon, indépendamment du succès électoral que l'on sait, hein, mais sa communication en tant que gouvernement, ce qui est quand même un peu plus important, sur le thème de l'attractivité de la France. Et on se rend bien compte, là encore, que l'attractivité, c'est rien, si ce n'est du tourisme. Ce qui manque à la France et à l'Europe, c'est la puissance, et nous sommes heureux d'entendre à l'occasion de ses vœux un discours qui tend vers cette nécessité de puissance.
Alors on a l'impression, parce qu'on a beaucoup parlé dans cette émission de l'intelligence économique qui doit viser à construire le périmètre stratégique de l'économie française, et c'est vrai que on en parle, mais on n'est pas les seuls à en parler, il se passe beaucoup de choses. On a vu comment l'Élysée est intervenue au sujet de EADS, qui est cette grande entreprise européenne qui, dans l'aéronautique civile, vous l'avez vu, va damer le pion à Boeing pour la deuxième année consécutive, qui a eu une commande de 3 milliards d'euros le 24 décembre, c'était son cadeau de Noël, de la part de la ministère de la Défense français pour développer les nouveaux missiles balistiques M51. Alors, Xavier Van Lier, de vous qui êtes le spécialiste de tout ce qui se passe en intelligence économique et puis qui est particulièrement bien informé dans ces milieux-là, est-ce que, quelque part, ça qu'a dit Jacques Chirac, c'est les fruits de l'évolution de tout ce qu'on a vu sur 2004 ?
Mais écoutez, oui, tout à fait, vous avez bien fait de lier les deux sujets, puisque les vœux de Jacques Chirac s'inspirent en fait directement d'un rapport qui lui était remis précédemment, un rapport qui était le rapport BEFA, je crois, et dans lequel l'auteur expliquait au président de la République et aux autorités politiques de notre pays que leur responsabilité aujourd'hui, c'était de lancer des programmes tels qu'Airbus ou Ariane, mais ceux de demain, des Airbus et des Ariane de demain, ceux qui permettront, continuait-il, de conserver et d'accroître notre supériorité technologique. Supériorité technologique, il y allait un peu fort, parce qu'il s'agit non seulement de la maintenir, mais de la reconquérir, mais l'essentiel n'est pas là, il est dans la prise de conscience de plus en plus forte depuis des mois maintenant, et pour le dater depuis que Bernard Carayon a remis l'année dernière, l'été, non, il y a près d'un an et demi maintenant, son rapport intelligence économique, cohésion sociale, c'est la prise de conscience que nous n'étions pas dans un monde irénique où la croissance s'obtenait en commun, mais bien dans un monde de compétition où les grands ensembles géopolitiques étaient en voie de hiérarchisation. Cette prise de conscience se développe par la volonté exprimée par Jacques Chirac de relancer des grandes politiques industrielles, par un retour donc du politique dans la sphère de l'économie, non pas par l'interventionnisme. Et pour preuve d'ailleurs, c'est que cette grande politique industrielle, qu'ils auraient, semble-t-il, la volonté d'initier, sera financée par des privatisations. Il ne s'agit donc pas de faire en sorte que l'État redevienne producteur, mais bien qu'il organise, coordonne les forces vives de la nation dans le sens d'un accroissement de puissance. Et d'autres initiatives sont prises dans le même sens, et notamment, effectivement, vous le disiez, des initiatives plus strictement d'intelligence économique, et je crois qu'il faut, sur ce chapitre-là, saluer les initiatives prises par Dominique de Villepin dans le droit fil du rapport Carayon dont je parlais tout à l'heure, et qui consiste à expliquer au préfet que désormais, la sécurité économique et l'intelligence territoriale constituent des priorités. C'est bien sûr en résonance totale avec sa politique industrielle, puisque la sécurité économique, ça consiste à faire en sorte que les entreprises émergentes, les jeunes pousses, comme on dit, qui contiennent des technologies qui demain peuvent peser, comme les nanotechnologies, les biotechnologies, qui seront des facteurs de puissance demain, eh bien, ne tombent pas dans des mains étrangères après des OPA hostile. Ça, c'est le premier volet, celui de la sécurité économique. Le second volet, qui est celui de l'intelligence territoriale, consiste à faire en sorte que l'on crée des pôles de développement économique dans chaque région autour d'entreprises phares et qu'on fasse en sorte qu'elles travaillent ensemble pour créer des filières qui demain donneront naissance à des technologies nécessaires à l'acquisition de puissance et au maintien du statut de la France. Mais d'ailleurs, au-delà d'ailleurs de ces technologies sensibles qu'on peut appeler des technologies de souveraineté, ce qui est révélateur, puisque sans ces technologies de souveraineté, eh bien notre souveraineté serait réduite à néant malgré tous les beaux discours qu'on pourrait faire autour. Au-delà donc de ces technologies de souveraineté, il s'agit tout simplement aussi de sauvegarder l'emploi. C'est-à-dire lorsqu'on fait en sorte qu'une entreprise A puisse accueillir dans son périmètre proche une entreprise B, être sûr de ses sous-traitants, eh bien on favorise aussi l'emploi et ce n'est pas non plus sans importance.
Et l'Europe dans tout ça, j'ai envie de demander à Grégoire Gambier.
Oui, justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un véritable phénomène, puisque là, Xavier von Lierre nous parlait de la résonance en matière d'intelligence économique, d'intelligence territoriale, enfin la mobilisation de certains services de l'État en faveur de la compétitivité des entreprises et de la construction d'une puissance qui ne dit pas toujours son nom, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Résonance également à l'échelle de l'Europe, puisqu'on se rend bien compte dans le même temps que la stratégie de Lisbonne, donc élaborée au sommet de Lisbonne en 2000, est un semi-échec. C'est-à-dire que je vous rappelle que la stratégie de Lisbonne donc voulait faire de l'Europe la première puissance économique mondiale en 2010, c'est-à-dire demain, en axant tous ses efforts sur l'économie de la connaissance. Bon, c'est-à-dire que c'était beaucoup de grands mots avec très peu de résultats, ne serait-ce que parce que j'en parlais tout à l'heure, mais à l'échelle de l'UE, c'est pareil, la fuite des cerveaux dont seulement continue mais s'accélère et qu'on a assisté à un certain nombre de pertes de parts de marché, y compris dans les technologies innovantes, de la part notamment de la France et de l'Allemagne ces dernières années. Bon, donc bilan d'un semi-échec de la stratégie de Lisbonne, parce que la stratégie de Lisbonne se donnait 25 priorités, en gros, pour schématiser. Et au sein de l'Union européenne, donc avec la nouvelle commission Barroso, il y a une prise de conscience de deux éléments. Le premier, c'est que la stratégie de la seule défense de la concurrence, la sacro-sainte concurrence à l'anglo-saxonne, ne tient pas face à la nécessité désormais vitale de construire des champions européens de ces nouvelles technologies dont nous parlions tout à l'heure. Donc c'est une véritable révolution culturelle hein, pour les instances européennes. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien sûr l'action conjointe de la France et de l'Allemagne qui ont été donc les premiers à prendre conscience de ces nouveaux enjeux. Souvenez-vous que Jacques Chirac a quand même dénoncé un risque de vassalisation vis-à-vis des États-Unis à propos de la remise en cause partielle du projet Galileo et que Schröder n'était pas en reste lorsqu'il a accusé la Commission de Bruxelles de défendre davantage les consommateurs que les industriels. Enfin, on revient sur la stratégie de la concurrence. Donc il y a un double phénomène interne à la Commission de Bruxelles d'une prise de conscience réelle quand même, parce que les responsables voient ce qui se passe et se rendent compte des demi-échecs des décisions prises il y a quelques années. Et le deuxième phénomène, c'est bien le moteur malgré tout franco-allemand, même s'il a dératé, qui impulse une politique de puissance aux instances européennes.
Et ce moteur franco-allemand qu'on a vu, après quelques inquiétudes, fonctionner de manière harmonieuse, j'espère qu'il en sera toujours le cas dans l'affaire EADS. Hein, on a vu l'interventionnisme de l'Élysée dans l'affaire EADS s'agissant du remplacement de Philippe Camus ou non par Noël Forgeard. On a vu une combinaison peut-être souple et intelligente qui pour l'instant est maintenue entre à la fois un groupe qui est dirigé par des Français et par des Allemands et qui de chaque côté du Rhin ont une structure qui est publique, mixte public-privé chez les Français et qui est entièrement privée mais avec un regard important du public chez les Allemands. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'industrie européenne de défense aussi cette année. C'est l'occasion peut-être de faire le pont. On a vu donc cette affaire EADS avec le rapprochement envisagé avec Thales. On a vu l'alliance qui est en train de se faire matériellement entre SNECMA et SAGEM qui va permettre de donner à ce grand motoriste les moyens de la puissance et en tout cas de le confirmer sur une assise financière plus stable. On a vu poussé par les ambitions américaines en réaction l'industrie de défense terrestre commencer le début d'un commencement de réaction pour éviter d'être noyé. Ce sont les fabricants allemands ceux qui essayent de s'unir. C'est le fabricant français GIAT qui est poussé à la réforme pour passer de son statut d'établissement public à peut-être demain une entreprise privée pour être partie prenante du jeu. On a vu le gouvernement français aller très vite également dans la réforme de la DCN, la direction des constructions navales, dans le changement de statut de manière à faire participer la DCN au grand mécano qui est en train de se jouer sur le terrain des industries navales. Là aussi, est-ce qu'on peut tirer une ou deux grandes lignes sur l'industrie de défense européenne, Xavier Van Lierne? Je vois que vous avez réagi quand j'ai parlé de SNECMA et de SAGEM, vous n'êtes pas tout à fait d'accord?
Non, je crois que la logique industrielle du rapprochement SNECMA-SAGEM n'est pas parfaitement évidente, mais qu'en revanche, il s'agit néanmoins d'une décision saine, visiblement prise un petit peu dans l'urgence pour éviter prise du contrôle de la SNECMA par General Electric, ce qui aurait été une catastrophe. Voilà, c'est une bonne décision prise dans un contexte d'urgence et on peut souhaiter qu'à l'avenir néanmoins les rapprochements se fassent sur des logiques industrielles à long terme, et c'est tout ce qu'on souhaite après les vœux volontaristes de Jacques Chirac. Là il s'agissait de parer, je crois, à une situation d'urgence dramatique, mais bon, félicitons-nous que cette décision ait été prise. Si la SNECMA était passée sous le contrôle de General Electric, ça aurait été dramatique. Non, sur ce plan-là, il y a un petit écho, qui est plus qu'un petit écho, un dossier qui est paru dans un journal spécialisé anglais qui s'appelle James Defence Weekly, journal spécialisé dans le suivi des problèmes de défense et d'industrie de défense en Grande-Bretagne, qui est une référence mondiale en la matière, et qui notait que la réélection de George Bush et surtout la dérive quelque peu protectionniste de la majorité de George Bush à la Chambre des représentants aurait peut-être un effet qui peut être dramatique dans un premier temps pour l'industrie de défense britannique, mais une opportunité à saisir pour l'industrie de défense européenne, c'est que ces représentants à la Chambre de la majorité républicaine aux États-Unis font actuellement pression et font du lobbying pour déposer un projet de loi faisant en sorte que le recours à des composants électroniques ou industriels dans des programmes militaires américains soit rendu impossible. Sous-entendu, nos alliés ne sont pas fiables, donc il faut construire de A à Z les armements américains avec des produits américains. Ça remet en cause un certain nombre de programmes militaires développés particulièrement avec l'industrie de défense britannique qui, on le sait, avait tendance à se rapprocher de leurs cousins d'outre-Atlantique plus volontiers que de l'industrie de défense française ou européenne. Souhaitons donc que George Bush II et ses amis à la Chambre produisent, tout comme George Bush I, des effets bénéfiques non souhaités, à savoir qu'ils fassent entendre raison par leurs bêtises à nos amis britanniques, et qu'enfin on puisse constituer avec eux de véritables groupes et avoir une stratégie d'industrie de défense européenne cohérente, y compris les Britanniques, et c'est fondamental parce que ils représentent une part non négligeable du savoir-faire en la matière.
Oui, c'est assez, effectivement, l'Angleterre est sur ce terrain-là, comme sur d'autres terrains, totalement dans une situation paradoxale entre des coopérations très fortes en Europe, que ce soit avec BAE Systems ou General Dynamics dans l'industrie terrestre, mais avec une appétence politique qui l'a fait regarder outre-Atlantique, qui est une espèce de schizophrénie.
Voilà, et aussi de pragmatisme peut-être, parce que à leur décharge, c'est vrai que la plupart des rapprochements entre l'industrie de défense britannique et l'industrie américaine se sont faits dans un contexte où les programmes militaires et les investissements consentis par l'Europe continentale en matière de défense s'effondraient. Et que donc il valait bien mieux pour eux être présents sur des programmes militaires américains avec un État qui investit de façon considérable dans la défense que sur l'Europe continentale. Pour avoir des Britanniques qui se rapprochent de l'industrie de défense européenne, il faudrait aussi qu'enfin l'Allemagne, la France et d'autres qui ont des ambitions de puissance, on le voit et on s'en félicite, les traduisent également en actes. Parce que la puissance, c'est certes la puissance économique, c'est la cohésion sociale, mais c'est aussi la capacité à avoir un instrument de défense qui tienne la route.
Oui, je ne sais pas si... En fait, on va voir très rapidement l'occasion de tester sur le terrain la fiabilité de nos alliés britanniques, qui sont effectivement dans une position, à mon avis, plus schizophrénique que vraiment... c'est vraiment de schizophrénique. Leur lien transatlantique est très fort pour des raisons historiques et idéologiques évidentes, mais leur volonté aussi de garder un pied dans l'Europe et de contribuer à construire une Europe n'est pas moindre non plus. Il faut toujours garder à l'esprit quand même les luttes d'influence au sein des différents gouvernements ou même au sein des partis britanniques entre ces deux tendances traversant chaque courant et plus encore chaque britannique lui-même. Donc c'est quand même très complexe. Mais on va avoir très rapidement, je disais en tout cas cette année, je pense, l'occasion de tester donc cette fidélité de la Grande-Bretagne à ses alliances européennes avec la présence de l'UE, enfin le fait que l'Union européenne, avec l'opération Althea, donc le fort, a pris, vous le savez, début décembre, la relève des troupes américaines en Bosnie, et il se trouve que l'essentiel, en fait, donc des postes de commandement, qu'ils soient civils ou au niveau de le fort, dans certaines zones, sont britanniques, et donc avec un lien hiérarchique évident avec le QG de l'OTAN, qui est aussi britannique, puisque c'est un général anglais qui commande l'OTAN en ce moment, et donc il va y avoir une double tentation pour les responsables militaires britanniques en Bosnie, c'est soit jouer carte sur table et avec donc le fort qui est composé essentiellement de soldats français, ou maintenir des liens plus étroits avec l'OTAN d'une part et ce qu'il reste des troupes américaines en Bosnie d'autre part. C'est quand même 350 hommes, essentiellement des forces spéciales qui vont faire du renseignement. Donc ça va être intéressant de suivre ce théâtre sous cet angle-là.
D'autant que le deuxième semestre 2005 coïncidera avec la présidence anglaise de l'Union européenne, qui donnera donc une colonne vertébrale complète à l'Angleterre pour faire, non pas tout, mais pour faire une bonne partie de ce qu'elle aura envie de faire.
Bah, pour faire ses preuves vis-à-vis des politiques qui sont assignées, ça va être intéressant.
Alors, un autre sujet, parce que là, on est plutôt dans les bonnes nouvelles, ou dans les nouvelles sympathiques, ou dans les nouvelles qui appellent de l'optimisme. Alors, il y a quand même eu une mauvaise nouvelle pour l'Europe telle que nous la voyons. Encore que, elle a permis, là aussi, à la France et à l'Allemagne de faire des choix, et en l'espèce, elle a fait des bons choix, c'est la crise ukrainienne. Alors, la crise ukrainienne, elle a été présentée dans beaucoup de médias, y compris sur cette antenne, je crois, mais bon, Radio Courtoisie sonore de compter toutes les opinions, comme une espèce de nouvelle victoire des forces libératrices sur l'archéo-stalinisme. Il est évident que ici, nous, à ce micro, en tout cas, nous ne partageons pas ce point de vue, puisque nous considérons que la révolution ukrainienne, puisque c'est ainsi que tout le monde l'appelle, est plutôt une mauvaise nouvelle qu'une bonne nouvelle. D'abord, je crois qu'il faut revenir un petit peu sur la genèse de cette révolution et de ce paradoxe qui fait que, en permanence, alors qu'on nous expliquait que le système ukrainien verrouillait son opposition et était quasi dictatorial, ben on pouvait avoir du jour au lendemain des milliers de sympathisants qui étaient chauffés, nourris, informés avec des écrans à plasma sur la grande place de Kiev. Et donc, on a pu voir sous nos yeux toute une logistique totalement marketing, bien sûr, cette fameuse révolution orange qui est le pendant de la révolution des roses en Géorgie. Et donc, on a toute une... On a bien vu que se sont déroulées sous nos yeux des opérations marketing de première ampleur. Gérard Chalian, qui est expert en géopolitique et dont le nom est connu ici, avait signalé d'ailleurs dans un très bon papier dans Le Figaro où il traitait à la fois de la question turque, de les questions du Proche-Orient et de la question de l'Ukraine, rappelait que, et souvent les auditeurs l'ignorent, l'Ukraine est depuis 10 ans le troisième pays destinataire de l'aide financière américaine après Israël et l'Égypte, ce qui laisse quand même quelques moyens pour les États-Unis d'entretenir une opposition ou même un mouvement puissant dans un certain nombre de pays. Même le journaliste du Figaro qui traite habituellement les questions d'Europe, de Russie et d'Europe de l'Est et qui se spécialise par un parti pris absolument extraordinaire, note pudiquement, à chaque fois le rôle des Américains a été sans doute minimal, la principale contribution de l'Amérique aux révolutions de velours ayant été toutes ces années de semer les germes d'une société civile par Soros et Carnegie interposés. Donc quand on connaît un peu comment fonctionnent George Soros et les fondations Carnegie et autres, on imagine bien la société civile que veulent créer les États-Unis. Bref, sans revenir sur les déroulements de la crise ukrainienne, le résultat c'est quoi ? Le résultat c'est qu'aujourd'hui l'Ukraine a été déstabilisée pour qu'elle sorte le plus possible de l'influence russe. Et on ne parle pas là du vieil impérialisme soviétique. Non, on est bien dans une zone d'influence russe et l'Ukraine y échappe. Pourquoi ? Quelles sont les conséquences ? Première conséquence, c'est une zone tampon entre l'Europe occidentale et la Russie qui échappe au contrôle russe. C'est une zone par laquelle transitent énormément d'oléoducs et de gazoducs. Et l'on sait bien que un des principaux atouts de l'Europe dans son partenariat avec la Russie, c'est de construire un partenariat autour des questions énergétiques. Et donc, l'Ukraine vient ici prendre le risque d'être le fossoyeur de ce partenariat fondamental entre la Russie et l'Europe. À qui cela peut-il bénéficier, à votre avis? Deuxièmement, on a vu tout de suite dans la gestion de la crise ukrainienne que les intermédiaires qui se sont proposés pour jouer les bons offices ont été d'une part le président, l'ex-président lituanien Landsbergis qui a signé il y a quelques jours dans Le Figaro une tribune absolument scandaleuse et insultante contre le Paris, Berlin et Moscou, et le président polonais. Une fois de plus, il s'agit de valoriser et de faire prendre du poids aux chefs d'État de la jeune Europe pour qu'ils contrebalancent, là encore, les chefs d'État de la vieille Europe. Suivez mon regard. Et puis surtout, il s'agit enfin de continuer, de contribuer à faire de la Russie une puissance régionale et non pas une grande puissance. C'est ce qui a été, c'est l'aveu permanent que nous citons régulièrement ici du fameux Brzezinski qui n'est pas un néoconservateur, mais qui est un... Et ça fait 20 ans que Brzezinski répète la même ancienne. Une fois de plus, la Russie est marginalisée, est attaquée, et est attaquée dans ses sphères d'influence les plus directes. Et ça va même plus loin, puisque les commentateurs ne se sont pas privés de dire que, ma foi, la révolution orange ukrainienne pourrait être une préfiguration d'une révolution, alors je ne dis pas de quelle couleur elle sera, celle-là, en 2008, lorsque Vladimir Poutine sera obligé de remettre en jeu son mandat. Vous savez que la constitution russe ne lui permet pas à ce jour de s'assurer d'un deuxième mandat. Il faudra donc trouver en 2008 un successeur à Vladimir Poutine. Ça va commencer très vite. Et on pourrait imaginer qu'effectivement des nouveaux mouvements d'opinion soient suscités de la sorte. c'est à rebours d'ailleurs que l'on comprend mieux l'affaire Yukos, que l'on comprend mieux ce qui s'est passé avec le milliardaire Khodorkovsky qui a construit sa fortune sur les escroqueries des privatisations sous l'ère Eltsine et qui a été mise au pas par le fisc et l'administration russe. On comprend mieux le niveau de précaution que peut prendre la Russie. Donc voilà. Aujourd'hui, pour synthétiser, l'affaire ukrainienne n'est pas du tout une victoire de la liberté. Il y a fort à parier que dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, les Ukrainiens seront sous le joug d'un régime tout aussi pourri et tout aussi corrompu que la Géorgie. On nous a fait les gorges chaudes de la révolution géorgienne. Aujourd'hui, force est de constater que la situation économique n'a absolument pas changé pour la population géorgienne. La seule chose qui a changé, c'est que il y a des soldats et des conseillers militaires américains partout, dans les gorges de Pankisi face à la Tchétchénie, sur le tracé de l'oléoduc et aux marches et à la frontière russe, poussant sans arrêt la Russie cherchant à pousser la Russie à la faute. Et puis un dernier point, on nous dit souvent que la Russie est en train de se crisper. On peut comprendre qu'elle se crispe, c'est une chose. Que c'est la quasi-dictature. Je rappelle que hier, le Sherpa du président Poutine au G7, qui est donc un fonctionnaire de haute importance dans le dispositif d'État russe, s'est exprimé librement sur les ondes pour critiquer la politique du gouvernement russe. Il a été démis de ses fonctions, ce qui est bien la moindre des choses, mais il a pu s'exprimer devant les médias russes en disant qu'il était radicalement opposé au récent développement de la politique russe, ce qui prouve bien qu'on n'est pas dans un système totalement fermé. C'est donc à l'aune de ces événements qu'on aura apprécié une fois de plus la grande maturité et la grande intelligence du comportement des gouvernements de Paris et de Berlin. Gerhard Schröder, lui le social-démocrate, poussant même le bouchon jusqu'à rappeler à tout le monde qu'il n'y avait aucun doute dans le fait que Vladimir Poutine était un grand démocrate, ce qui venant quand même d'un social-démocrate est un véritable brevet. Oui. Et la France elle-même a été particulièrement mesurée, cherchant les solutions à la crise ukrainienne qui soient les plus, les moins outrancières possibles et permettant de préserver un maximum l'avenir, évitant de blesser les Russes, ce que ne se privent pas de faire les Américains. Donc voilà. C'est peut-être en creux une illustration de la pérennité dans quelques esprits de cet axe Paris-Berlin-Moscou qui est bien bousculé, mais qui quand même se densifie et essaye de prendre corps, au moins chez certains, ce que nous encourageons. Xavier Van Lierne, vous avez noté plein de choses.
Oui, en vous écoutant, il me venait une idée, vous parliez de ces commentateurs qui ne cessent de s'inquiéter de l'impérialisme russe, de sa volonté de pression sur les voisins, etc. etc. Il me venait une petite idée, c'est de refaire un petit peu le panorama, mais inversé des 15 dernières années. Imaginons parce que je crois que dans les affaires internationales et géopolitiques, il est toujours intéressant de se mettre à la place des autres. Imaginons que au tournant des années 90, on ait décidé de dissoudre l'OTAN, mais qu'en retour, la Russie et ses alliés aient maintenu le pacte de Varsovie. Et puis qu'au fil du temps, un certain nombre de pays très proches des États-Unis, comme le Mexique par exemple, ou le Canada, aient adhéré au pacte de Varsovie. Et puis que lors d'un renouvellement de gouvernement, la Russie a apporté son soutien à un candidat brésilien très très anti-américain. Eh bien, quelle aurait été la réaction des États-Unis face à une telle situation? Est-ce que vous pensez que George Bush aurait été aussi mesuré que Vladimir Poutine dans une telle situation? Parce que c'est bien cette situation que vit aujourd'hui la Russie. La Russie, en abandonnant le communisme, a aussi abandonné de fait les alliances militaires qu'elle avait nouées avec les pays d'Europe centrale. L'OTAN, en retour, n'a pas été démantelée. Et puis, petit à petit, l'ensemble des pays d'Europe centrale passe sous la coupe de l'OTAN, tout comme les Pays-Bas, demain probablement l'Ukraine. Il s'agit tout simplement d'une tenaille. Une tenaille qui est constituée par une alliance militaire. Comment peut-on justifier auprès de la Russie de faire entrer dans une alliance militaire tout ces pays-là, si ce n'est contre elles. Je doute que les pays baltes soient rentrés dans la Russie pour se protéger d'une agression de l'Iran ou de la Chine ou de la Corée du Nord. Mettons-nous donc quelques instants à la place des Russes. Imaginons le scénario inverse et quelle aurait été la réaction de ces grands démocrates dont on mesure, dont on loue sans arrêt la tempérance.
Grégoire Gambier.
Oui, j'ajouterais qu'on a observé à l'occasion de la crise ukrainienne le rôle actif, activiste de l'OSCE,
oui.
L'organisation donc pour la sécurité et la coopération en Europe. Alors je rappellerai simplement qu'on a l'impression, elle porte très mal son nom cette organisation, parce qu'une fois de plus on a l'impression que c'est l'Europe qui s'agite, qui s'active et qui va à contresens, en tout cas de notre point de vue autour de ces micros, de son destin historique. Alors simplement deux points. D'une part, il y a effectivement à l'échelon européen quand même, mais à l'échelon de tous les gouvernements des pays européens, une prégnance très forte de l'idéologie des droits de l'homme. Et c'est encore Günther Verhungen, qui est le commissaire européen aux entreprises et à l'industrie, qui lors d'une récente interview au Monde sur donc la compétitivité européenne, a trouvé le moyen de rappeler que le modèle européen, c'est un modèle qui se fonde sur l'héritage des Lumières. Bon, bref. Donc nous sommes là à la fois sur un travers très profond, mais qui n'est pas propre à l'Union européenne, qui n'est que l'expression de la plupart des États-nations européens, et tout particulièrement de la France. Donc c'est le premier point. Le deuxième, c'est que l'OSCE, ne l'oublions pas, a été créé au lendemain des accords d'Helsinki. Souvenez-vous, même Jean-Pax Meffrey en a parlé. Et donc au lendemain des accords d'Helsinki, pour justement contrôler les accords d'Helsinki qui avaient trois piliers, un sur la sécurité, un autre sur la coopération économique, scientifique et technique, et le troisième pilier, bien sûr, sur les droits de l'homme, qui prévoyait la libre circulation des idées et des hommes. Ce sont ces accords qui ont nourri le mouvement Refusnik, qui a été lui-même très très appuyé par les États-Unis d'Amérique à l'époque, et c'est l'OSCE qui s'est à l'origine qui devait contrôler l'application de ces accords, et qui depuis, Xavier von Lien le disait effectivement, si ce n'était que ça, ça aurait dû s'arrêter à partir du moment où le mur de Berlin s'effondrait. Et ben non, ça a persisté. Ce n'est plus la conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, c'est devenu l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, un petit peu avant, et tout simplement pour imposer aux différents États libérés du joug communiste l'idéologie libérale, droit de l'homiste. Et on a bien vu le rôle néfaste de cette organisation, où siègent les États-Unis, le Canada ou encore la Turquie, donc il n'y a d'européenne que le nom, dans la crise ukrainienne.
Alors, avant de donner la parole à Xavier Van Lien, qui voudrait répondre à un message, je vais en citer quelques-uns qui nous sont arrivés et qui sont assez équilibrés, comme d'habitude, sur Radio Courtoisie. D'abord, félicitations d'une dame russe. C'est la seule explication juste que j'ai entendue à côté de tous les mensonges des radios officielles, d'un côté. De l'autre côté, un message alors totalement délirant et en plus totalement irrespectueux et insultant. Donc,
à l'égard de qui ? Pas de Radio Courtoisie,
nous,
quand même.
En nous racontant votre propagande poutinienne, vous jetez le masque, vous n'êtes pas de la vraie droite, vous êtes au service des soviets et notre Europe est une Europe soviéto-communiste. Alors écoute, je voudrais dire à ce monsieur que d'abord il faut se tenir au courant que depuis récemment on a eu l'électricité, maintenant on a de l'eau chaude et le mur de Berlin est tombé. Voilà. Et donc si ce monsieur ne comprend pas ça, surtout faut qu'il arrête son poste, cette émission n'est pas pour lui. Au revoir monsieur, bonne soirée. Et sinon, un autre message plus intelligent où quelqu'un nous disait: ce que vous dites est très dangereux, expliquez-nous pourquoi mettre la Russie et attaquer les Américains, est-ce que ça ne peut pas être dangereux pour les Occidentaux ? Je pense que c'est une manière plus intelligente que le message précédent de poser les bonnes questions. Je vais prendre un exemple assez simple. Tout le monde sait que dans 10 ans, la pénurie de pétrole est quasiment assurée. Ou, sans aller jusque-là, que l'accès au pétrole deviendra, surtout pour les économies occidentales les plus développées, deviendra une question stratégique, si ce n'est vitale. Or, on voit bien, par exemple, une des constantes de la stratégie russe de gestion de ses ressources pétrolières, c'était de faire patienter la Chine. Gros consommateurs, peu de ressources, et jusqu'à maintenant, les Russes ont systématiquement choisi des solutions européennes, américaines ou japonaises dans le tracé de leurs oléoducs. Bien.
Et puis, au sujet de l'affaire Yukos et de ce qui est en train de se passer, à savoir que l'affaire Yukos, dont l'intégrité du management et les principaux actionnaires individuels sont des Texans ou des financiers internationaux, donc Yukos est basé aux États-Unis, a eu recours à la justice texane pour essayer de sauvegarder les droits, pour éviter de payer ce qu'elle doit au fisc russe. Et donc, vous savez, pour ceux qui ont suivi, que le fisc a donc saisi la compagnie Yukos, la mise aux enchères, la compagnie a été rachetée par une compagnie mixte russo-chinoise. Et pour la première fois, effectivement, les Russes sont en train de construire un partenariat énergétique avec les Chinois, puisque la compagnie chinoise CNPC vient de prendre 20% dans le holding qui possède les actifs de Yukos. Ce que ça veut dire, c'est que voilà, une fois de plus, dès lors que le monde occidental, et nous ici nous n'aimons pas tellement ce terme,
oui,
puisque
quel gros mot.
Il met en, du même côté les États-Unis et l'Europe, et ça c'était vrai pendant la guerre froide, c'était vrai jusqu'en 1989, ça n'est plus vrai aujourd'hui parce que les intérêts divergent. Aujourd'hui, lorsque l'Europe, poussée au train par les États-Unis, ferme sa porte pour des prétextes futiles à la Russie, eh bien, la Russie choisit d'autres partenaires. Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans une logique de puissance, dans une logique d'indépendance, tout simplement pour assurer notre souveraineté et la prospérité pour nos enfants et pour la démographie européenne de demain, c'est un partenariat stable, solide, de gens qui ont des communautés d'intérêt avec nous. Et ces gens-là, ils ne sont pas à Pékin, à Shanghai, ils ne sont pas non plus à Dallas ou à San Francisco ou à New York. Et il faut que les auditeurs de Radio Courtoisie le comprennent. L'équilibre des forces qui a... la bannière étoilée qui a fait rêver ceux qui ont eu 20 ans en 44 ou en 58 ou en 72, on peut le comprendre. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est le drapeau aux trois couleurs du Kremlin qui nous fait rêver, mais c'est le drapeau européen d'une vraie Europe puissante, indépendante, et cette Europe-là est bafouée tous les jours par ce que veulent faire ses compétiteurs, au premier rang desquels les États-Unis. Et donc voilà pourquoi nous disons que mettre en valeur la Russie et attaquer les Américains n'est pas dangereux, au contraire, c'est bien la seule porte de sortie, sauf à considérer que l'Europe doit être vassale des États-Unis, mais comme nous n'avons
encore mille ans
pour la musique country, le Coca-Cola et je ne sais quoi d'autre, nous préférons une coopération d'égal à égal avec la Russie, qui est un partenaire naturel et 100 fois plus naturel en tout cas que la Turquie qu'on nous propose. Xavier Van Lien, vous vouliez réagir à un message spécifique d'une auditrice.
Oui, une auditrice de nationalité ukrainienne est un petit peu désarçonnée par nos propos. Elle nous disait ceci: que doivent faire les Ukrainiens sous la botte russe? Souffrir en silence? Je suis ulcéré de ce que j'entends. Dites-nous que faire si vous êtes si malin. Et donc c'est une Française d'origine ukrainienne qui nous dit ça. Je veux d'abord rassurer cette Française d'Ukrainienne en lui disant que nous avons beaucoup d'amitié pour le peuple ukrainien et pour ma part je peux même le prouver, puisqu'au tournant des années 90 justement, j'avais participé à un convoi d'aide humanitaire à destination de l'Ukraine, et mieux que ça, elle me comprendra, à destination d'Ukrainiens de confession uniate. C'est-à-dire que c'est des Ukrainiens de l'Ouest, plutôt tournés vers la Pologne. Mais justement, malgré cela, je ne peux que constater que l'Ukraine n'est pas uniquement uniate et tournée vers la Pologne, qu'elle est même coupée en parts relativement égales.
Ouais, ouais.
Et ce que je souhaite, c'est que elle soit convaincue que le jeu que veut faire jouer les États-Unis à l'Ukraine, ce n'est absolument pas le jeu de sa prospérité et de son indépendance. C'est d'être une pomme de discorde entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, entre le poumon Ouest et le poumon Est. L'intérêt bien compris de l'Ukraine, c'est précisément l'instauration d'un axe Paris-Berlin-Moscou, quand on se trouve entre deux pôles majeurs de puissance, et que la puissance s'exprime par les forces militaires. Certes, on peut être broyé, mais aujourd'hui, lorsque la puissance s'exprime par le développement économique et la création de dynamisme en commun, lorsqu'on se trouve entre ces deux pôles, eh bien on en bénéficie pleinement. On se retrouve au cœur d'un dispositif performant. Or, les États-Unis n'en veulent pas, et c'est bien là le fond de la question, et ce sera aussi une réponse pour les deux autres auditeurs. Pourquoi est-ce qu'on préférait un partenariat avec la Russie qu'avec les États-Unis? Eh bien, tout simplement parce que depuis plus de 20 ans maintenant, effectivement, les États-Unis intrigue pour empêcher toute réunification du continent européen. On avait pu croire un instant qu'il s'agissait seulement d'un combat contre le monde bolchevique, le communisme et son idéologie délétère. On est forcé de constater que tous les instruments mis en place par les Américains du temps de la guerre froide, instruments de propagande, instruments militaires, et qui devaient contrer la subversion communiste, sont aujourd'hui utilisés pour agresser la Russie. Il faut en tirer les conclusions, c'est-à-dire qu'au-delà de l'Union soviétique, ce que ces instruments servaient à combattre, c'était la Russie, les possibilités de réunification du continent européen qui auraient été naturelles après l'effondrement du mur de Berlin et du rideau de fer. Les auditeurs de Radio Courtoisie, certains d'entre eux en tout cas, ils seront certainement sensibles. Il faut savoir que cette théorie américaine qui consiste à faire de l'Europe de l'Ouest une série de vassaux et qui consiste à considérer que la prééminence des États-Unis sur le monde dépend de leur capacité à empêcher la réunification de l'Europe a été théorisée par le Zbigniew Brzezinski dont on parlait tout à l'heure et qui est par ailleurs l'initiateur, le créateur, l'inspirateur d'un groupe qui s'appelle la Trilatérale. Je pense que pour un certain nombre d'auditeurs de Radio Courtoisie, y compris parmi ceux qui nous reprochent d'être pro-russes, ce sont des mots qui signifient quelque chose.
Et voilà, je crois qu'on peut effectivement, on ne peut qu'appeler les auditeurs de tous âges et de toutes opinions de Radio Courtoisie à effectuer une véritable révolution culturelle,
copernicienne
peut-être. Mais je vais dire une banalité, mais on est dans un monde qui tourne de plus en plus vite, saturé d'informations, et je crois que la performance réside dans la capacité à être souple et à être réactif. Et c'est valable à la fois dans l'action que dans la réflexion. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas voir les bouleversements énormes qui sont apparus, les premiers à la chute du mur de Berlin, les seconds à compter du 11 septembre et peut-être le troisième à partir du moment où la France, l'Allemagne et la Russie se sont opposés vigoureusement à l'impérialisme américain au Conseil de sécurité à l'ONU. Après, on en pense ce qu'on en veut, mais il faut analyser ce qui se passe aujourd'hui, comme disait Xavier Van Lier dans Géopolitique, en se mettant à la place des autres et en comprenant sur quoi se font les lignes de fracture aujourd'hui. Les lignes de fracture qui sous-tendent les comportements d'aujourd'hui sont des lignes qui s'exprimeront dans 5, 10, 15, 20 ans. Et la guerre froide est bien derrière nous et les questions de la démocratie et des droits de l'homme sont des trompe-l'œil. Enfin, il va falloir aussi sérieusement comprendre que ceci est une arme idéologique. Qu'on nous explique avec de bons arguments que la fraude en Ukraine est absolument terrible alors qu'on a accepté et enregistré les résultats des élections en Afghanistan qui se sont déroulées dans des conditions croquignolesques, ou les élections municipales en Bosnie, où la population serbe, dans le Kosovo, les élections au Kosovo serbe, où la population autochtone serbe a été quasiment empêché de voter. Alors, nous ne sommes pas de ceux qui regardons de manière angélique ces concepts-là. Vous avez venir d'une réaction, ou Grégoire Gambier, oui, je lise quelques messages.
Effectivement, dans la même veine de ce que vous dites sur le déroulement des élections, il va bien de soi qu'il y a mille manières de truquer une élection. Il y a la manière peut-être un petit peu archaïque qui peut être celle des Russes et qui consiste à gonfler un petit peu ses muscles à l'approche d'une échéance, et puis à la manière pernicieuse, moderne, scientifique, mise en œuvre par les États-Unis et qui consiste à s'offrir ici ou là des chaînes de télévision, à soudoyer des instituts de sondage, faire appel à des pros du marketing, puisqu'on ne dit plus propagande, à préparer des stocks de d'écharpes orange, les écrans plasma dont vous avez parlé, et aussi à acheter un certain nombre de correspondants, d'éditorialistes, de commentateurs patentés de la presse mondiale. Et je voudrais ici rappeler cette tribune qui avait été publiée voici deux mois maintenant, qui s'appelait, bien avant la crise ukrainienne, qui s'appelait « Cessons d'embrasser Monsieur Poutine ». Staline, une tribune absolument extraordinaire, puisqu'elle était publiée par 114 personnalités, 114 personnalités décrites comme de tous horizons politiques et de tout pays, mais qui avaient néanmoins un point en commun, c'est que toutes étaient membres ou employées par des fondations américaines. Les fondations sont une sorte d'université privée chargée de réfléchir et aussi d'éclairer les masses. Voilà une façon aussi. L'opinion publique, c'est un facteur. Il faut bien savoir que pour les puissants du monde, ce n'est pas un acteur, c'est un facteur. C'est un facteur qu'on utilise, qu'on influence, qu'on actionne en fonction des besoins. Et je crains, en l'occurrence, que le peuple ukrainien ait été actionné par ces gens qui sont des pros. Moi, j'invite les auditeurs qui ont Internet à consulter un petit peu. Parce que les Américains ont ceci de très bien, c'est qu'ils annoncent à peu près tout ce qu'ils font. Parce qu'ils savent faire la distinction entre les médias grand public et les médias qui ne le sont pas. Ils savent que ce qui compte sont les médias grand public. Donc dans les médias grand public, on fait passer un message iréniste, droit de l'homiste et autres. Mais en revanche, sur une série de sites internet qui sont ceux de ces fondations, voire ceux de départements d'État américains, eh bien, on découvre les choses affirmées beaucoup plus clairement. Et notamment, il y a un rapport qui est absolument extraordinaire et qu'on peut trouver sur un site internet belge, je crois, qui s'appelle Defensa, Defensa.org, ddefensa.org, fait part d'un rapport assez critique fait par une commission d'enquête américaine sur ce que ils appellent les strategic communication, les communications stratégiques. Les communications stratégiques, le seul mot français qui permette d'en donner toute la teneur, eh bien, c'est propagande. Et on a là toute une série d'experts du Pentagone, de think tanks et d'officines privées qui réfléchissent sur la capacité des États-Unis à modeler l'opinion publique en interne comme en externe, l'opinion publique mondiale. L'opinion publique mondiale, cette société civile qu'on nous décrit sempiternellement comme un acteur, dans ce rapport, est décrite non pas comme un acteur, mais comme un pion qu'on avance en fonction des nécessités sur l'échiquier. Et il y a là toute une série de réflexions scientifiques sur la façon dont on peut manipuler l'opinion, faire en sorte qu'elle agisse de telle ou telle manière. C'est ce qui s'est passé en Ukraine, c'est ce qui a failli se passer en Croatie, où, et j'en terminerai par là, trois instituts de sondage très proches de groupes médiatiques internationaux, dirait-on, c'est-à-dire anglo-saxons, avaient prédit la victoire. Pour certains en premier tour, pour les autres au second tour, d'un homme d'affaires croato-américain qui finalement s'est révélé, là ça a foiré, est arrivé en troisième position avec 18%,
Après avoir fait un recours, en disant c'est comme en Ukraine, on a bourré les urnes. Mais bon,
là, avec 18%, c'était un peu trop gros.
Oui, il a été un peu débouté.
Mais il aurait fait 40%, ça aurait fonctionné, il y en aurait eu des éditorialistes qui nous auraient expliqué qu'en Croatie c'est terrible, les oustachis reviennent.
Alors Grégoire Gambier, et puis après on lira quelques messages parce qu'on est submergé de messages.
Oui, il y a des message intéressant, simplement pour compléter le propos de Xavier Fandler, on est bien dans un double échiquier s'agissant de la stratégie de communication américaine, puisqu'il y a bien l'opinion publique qui est une caisse de résonance au sens marxiste du terme, sans aucun problème, donc avec des méthodes un peu dites plus fines, mais à peine, quand on regarde bien, on dissèque les procédés, ils sont relativement grossiers, et le deuxième échiquier quand même s'attache aux élites de ces pays notamment. Il faut savoir que la plupart de ces élites sont repérées, prises en main, formés, financés, avec des bourses pour aller dans les meilleures universités américaines. Et après, elles sont renvoyées dans leur pays. Et elles sont chargées, évidemment, de faire accéder ces pays aux joies universelles de la démocratie de marché. Donc ça, c'est c'était un petit complément. La deuxième chose pour répondre à nos auditeurs sur notre solidarité de fait avec l'Interland menacé par la thalassocratie américaine. Indépendamment de ça,
l'Interland, ça veut dire le grand continent européen
dans le cœur est bien, l'Eurasie, en termes géopolitiques, c'est bien l'Eurasie qui est menacée par ce type de procédé,
du Portugal à la Sibérie.
Tout à fait. Bon, donc indépendamment de ça, simplement un petit élément actuel, mais qui éclaire beaucoup, qui éclairera beaucoup, je l'espère, nos auditeurs. Donc, indépendamment de notre appétence pour une alliance eurasiatique plus affirmée, vous avez sans doute remarqué que Geos a été quasi racheté, en tout cas a été refinancé par la famille Verspieren, industrielle du Nord, et avec comme objectif de faire de Geos, c'est le premier groupe enfin, si on peut dire, la première société française d'intelligence économique, de renseignement économique, c'est la société officielle dans le secteur donc de l'intelligence économique et de la gestion de risque officielle, j'entends. Eh bien, non, mais c'est ça qui est important, parce qu'il faut savoir que ses principaux concurrents, si l'on peut dire en externe, hein, c'est l'américain Kroll, très connu de la DST notamment, en France, qui pèse 400 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Concurrent britannique, le premier britannique, Control Risk Group, 60 millions d'euros. Et ben Geos fait 15 millions et demi d'euros. D'où l'intervention de la recapitalisation par le groupe First Berlin pour faire en sorte qu'au moins Geos fasse 50 millions d'euros d'ici 5 ans. Ça souligne bien les enjeux, parce que
c'est encore une bonne preuve de la vitalité du capitalisme familial en France.
Et tout à fait. Et donc, indépendamment de l'alliance russe là, qui a rien à voir dans la question, c'est bien la reconstruction d'une stratégie de puissance pour la France, pour le couple franco-allemand et donc pour l'alliance Paris-Berlin-Moscou qu'il s'agit bien évidemment de suivre.
Alors, je vais lire rapidement quelques messages parce qu'ils nous en arrivent de tous les côtés. N'oublions pas que les États-Unis n'ont pas réagi et ont même laissé faire quand les chars soviétiques ont pénétré en Hongrie et sont entrés à Budapest en 1956. Je comprends ce que vous croyez, ce que vous essayez d'exposer et je suis de votre côté, effectivement. Les Américains se montrent anti-russes quand ça les arrange. Votre analyse est tout à fait pertinente. J'ai tenu les mêmes propos à mon épouse en ce qui concerne l'Ukraine. Les pays de l'Est, qu'ils adhèrent à l'Europe, oui, à l'OTAN, non. Le comportement des Américains est très clair, diviser l'Europe pour y régner. Or, notre allié naturel est la Russie, avec les immenses réserves de la Sibérie sur lesquelles les États-Unis veulent mettre la patte. Je partage l'analyse sur l'Ukraine et je ne doute pas que cette situation va poser à la Russie un immense problème, car son encerclement géostratégique par l'Occident est en cours de réalisation. On reviendra, hein, on va pas revenir sur le terme Occident, mais
c'est bien ça. Hein.
En vérité, il faut dire aussi que la Russie de M. Poutine est bien affaiblie. Je suis d'origine russe et enthousiaste à vous entendre. C'est exactement ce qu'a dit Poutine dans sa conférence de presse. Alors si ici, sur Radio Courtoisie, on plagie Vladimir Poutine, ou alors peut-être Vladimir Poutine nous plagie-t-il, va-t-on savoir, mais enfin notre preuve d'agent soviétique payé en rouble non convertible tente à se...
D'agent du Comintern, notre ancien auditeur, avant qu'il ne coupe sa radio.
Il est évident que les USA font tout pour empêcher la grande Europe solide. Pour la Turquie et l'Ukraine, c'est de la casse, et je vous remercie de l'avoir si bien expliqué. Je suis journaliste, je suis anticommuniste, mais je suis d'accord avec votre position. Je suis émerveillé par les connaissances des intervenants. Donc, messieurs, bravo. Oula. Il faut être idiot pour voir qu'on a voté là, en Ukraine, pour les Américains.
Mais il y a toujours des idiots utiles, diraient nos amis du Comintern.
Alors, je ne crois pas. Alors, une question intéressante d'un auditeur. Je ne crois pas à ce complot contre la Russie. Si la Russie était isolée, elle se tournerait vers la Chine pour lui fournir gaz et pétrole.
Mais justement.
Mais c'est assez amusant parce que, justement, un, c'est ce qu'elle fait parce qu'elle sent qu'elle est isolée. Et deux, il ne faut pas oublier non plus qu'un des avantages majeurs, un des atouts de l'arrivée de Vladimir Poutine aux commandes en Russie, c'est que le tropisme européen l'a emporté dans l'école russe sur le tropisme eurasiatique ou de l'autarcie. Je rappelle que ce soit de Brejnev à Andropov, la culture majoritaire, alors lié aussi à la guerre froide et au complot et au combat idéologique, mais il y avait deux écoles en Russie qui étaient l'école, je dirais, de Pierre le Grand, des pétersbourgeois, dont Poutine se réclame, et les autres. L'ouverture sur la façade ouest ou le choix du continent. Et la Russie, c'est ça qui est absolument sidérant, et c'est pour ça que les États-Unis réagissent, c'est que la Russie a clairement, très clairement fait le choix du partenariat avec l'Europe de l'Ouest, et c'est ce choix qu'elle a fait, c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui sur des très prudentes face à la Chine. Je rappelle que au nord du fleuve Amour, vous avez la Sibérie avec les immenses ressources et une densité extraordinairement faible, d'autant que la démographie russe est en mauvais état. Et au sud du fleuve Amour et de la Mongolie, vous avez des millions de Chinois qui poussent, qui se bousculent et qui voudraient des ressources. Donc la Russie fait ce choix européen, et c'est justement si on continue à la repousser, elle va faire d'autres choix. Je ne suis pas certain que ce soit dans notre intérêt. Voilà une question également sur le fait que les Russes ont écrasé l'Ukraine pendant des dizaines d'années. Oui, bah oui, un impérialisme russe qu'on ne nie pas. On ne dit pas que la Russie n'a jamais été impérialiste, n'a jamais été criminelle au temps du stalinisme ou d'ailleurs. Personne ne nie cela. Alors une question, effectivement, votre anti-américanisme viscéral est la marque d'un crypto-communisme radical. Votre bon, je comprends rien. La question est personne n'avait visiblement étranglé d'indignation, écrit n'importe quoi. Enfin, donc nous sommes des crypto-communistes. Je crois que c'est difficile, hein, que les. Je crois qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre.
Selon un autre auditeur, nous sommes aussi des petits néo-nazis convertis au communisme. ce qui est à mettre en parallèle avec de précédentes accusations selon lesquelles nous étions d'ignobles chiraciens.
Oui, oui. Il y a quand même, bon, sur Radio Courtoisie, qui est quand même une radio fantastique, il y a quand même des auditeurs qui ont un peu de mal à suivre, hein. C'est pas grave.
Mais c'est la radio de toutes les droites.
C'est la radio.
Y compris des plus bêtes du monde.
Absolument. Bien, nous voici à l'issue de cette heure. On a parlé, alors on n'a pas parlé de la Turquie, mais je sais que beaucoup d'émissions de nos amis animateurs sur Radio Courtoisie en parlent avec talent. Alors j'avais préparé un papier pour plaire à Xavier Van Liert sur le fait que Chirac, Schröder, personne, le Suédois, et Zapatero, l'Espagnol, se sont inquiétés de la démographie des 25. Alors est-ce que là aussi on aura une réaction tardive, parce que même si elle arrive demain matin, elle sera déjà tardive, je ne sais pas, mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler dans une prochaine émission. La démographie européenne semble devenir l'objet d'attention. Grégoire Gambier, très rapidement.
Oui, très rapidement, pour rebondir sur le sujet, mais c'est vrai que ce sera un thème en soi. Une récente interview de Raymond Barre lui-même, alors donc on va être barriste après avoir été chiracien néo-nazi.
Un barriste de la Ligue communiste révolutionnaire.
Oui, oui, ou chiracien néo-nazi, ou tout ce qu'on veut. Donc dans une interview au Figaro, à l'occasion donc de l'anniversaire, du 10e anniversaire de la mort d'Antoine Pinet, donc en décembre, disait donc que dire, donc question du journaliste du Figaro, convenu, que dire aux Français pour les convaincre donc le déclin n'est pas fatal. Réponse de Raymond Barre: pour être provocateur dans le climat intellectuel actuel, j'ai envie d'évoquer Guizot qui conseillait aux Français enrichissez-vous par le travail et par l'épargne. Bon, pour l'instant c'est pas très provo, mais il continue: j'y ajouterai un troisième moyen, le célèbre troisième pilier, par la natalité, car le vieillissement de notre population menace à terme le dynamisme de l'économie. C'est magnifique. Un jour aussi, Giscard et Chirac, pourquoi pas, reconnaîtront que le regroupement familial aura été un crime contre le peuple français.
Mais c'est fait, mon cher Grégoire Gambier. Dans un livre d'entretien avec la journaliste Agathe Forniaux, la question posée à Giscard était la suivante. Monsieur Giscard, quelle est la décision que vous regrettez le plus dans votre vie politique? C'était pas mot pour mot ceci, mais le sens était celui-là. Réponse de Giscard: eh bien, ce que je regrette le plus, c'est d'avoir institué le regroupement familial, parce qu'avec les proportions que ça prend, eh bien, ça peut nous conduire à la fin de la France. Voilà ce que Giscard expliquait dans un livre d'entretien à petit tirage.
Oui,
plutôt que,
mais un conte d'auteur en Auvergne. Mais bon,
écoutez, si c'est un livre qui lui vaut l'Académie française, ça sera toujours mieux que le passage dont Patrick Péel nous a déjà parlé, et il va nous reparler, puisque nous allons entamer la petite séquence musicale. Nous allons donc pouvoir lancer notre troisième demi-heure consacrée à notre actualité culturelle.
On va se passer peut-être un interlude musical. Oui, parce que là on est bien lancé sur cette cette émission.
Alors avant, juste de donner la parole à Patrick, dans ce cas-là, je relis deux messages. Le premier: je suis un des dirigeants du groupe Verspiren et je confirme que ce groupe a recapitalisé le groupe Geos. Voilà.
Très bien.
Nous félicitons le dirigeant et s'il nous laisse son adresse d'internet, nous avons déposé des CV immédiatement.
Oui. Il y a plein de choses à recapitaliser en ce moment.
Oui, parce qu'on n'a pas été très critique sur le groupe Geos, quoi qu'il y ait beaucoup à dire, mais bon, malgré tout, c'est quand même quelque chose qui compte. Donc,
on le félicite. Aura vu que nous avons félicité la famille Verspiren avant de recevoir son message, ce qui prouve notre sincérité. Et un autre message où un auditeur nous brocarde sur le thème vive l'Ukraine libre, l'Ukraine en a marre des Russes, allez faire un tour en Ukraine, vous verrez. On ne dit pas
en Crimée en tout cas.
On ne dit pas qu'il faut pas que l'Ukraine soit libre. Mais l'Ukraine sera-t-elle plus libre en passant de son ancien maître russe à son maître mondialiste américain? J'en suis moins sûr. Rendez-vous dans 10 ans, comme disait un grand chanteur
occidental.
Allez, Patrick.
Pour terminer par ce chapitre où on a été essentiellement négatif, les Ukrainiens. Sur ce chapitre ukrainien, il n'est pas du tout dit.
C'est une défaite de l'Europe.
C'est une défaite de l'Europe, mais les Ukrainiens ne sont pas des gens stupides. Il n'est pas du tout dit que demain, Yushchenko se révèle un véritable homme d'État, coupe la laisse que lui ont installé ses nouveaux maîtres ponctuels. Rien n'est absolument.
Le pensionnariat Timoshenko, déjà condamné pour malversation.
Non, c'est elle-même prétend qu'elle sera Premier ministre. Les trois autres qui sont en liste le prétendent également. Attendons.
Souhaitons surtout à l'Ukraine de ne pas être la Pologne du XXIe siècle, parce qu'elle en prend méchamment le chemin. Patrick Pell, peut-être.
Allez, Patrick Pell.
Avant de commencer, parce qu'il y a encore un message, ça s'arrête pas, qui demande simplement qu'on soit un peu plus courtois avec les auditeurs et de pas les traiter d'idiots ou d'ignorants, ce qui n'a pas été le cas. Et simplement pour dire aux gens que la Russie n'est plus communiste, c'est tout.
Voilà. Et dire aux gens également qu'on ne lit pas l'intégralité des messages des auditeurs, mais je pense qu'ils sont bien moins courtois avec nous qu'on ne l'est avec eux, mais passons, c'est la règle dans ce genre de circonstances. Allez Patrick, faites-moi rêver avec la culture.
On va faire une transition entre la culture, enfin entre la géopolitique, l'histoire et la culture. Les Anglais ont cette très bonne idée par rapport aux Français, c'est qu'ils ouvrent leurs archives tous les 30 ans. Ce qui permet chaque année d'avoir les très bonnes nouvelles de ce qui s'est passé chez eux. Il y a 30 ans, en 1974, c'était le travailliste Harold Wilson. Je pense que plus grand monde
les auditeurs de Radio Courtoisie,
oui,
certains.
Ceux qui sont effectivement, mais c'est pas notre cas, qui connaissent bien le système politique anglais. Alors Harold Wilson, il lui arrivait beaucoup de choses intéressantes en 1974. Il a reçu, et ce qui est incroyable, une proposition d'Amin Dada, qui voulait se proposer comme médiateur en Irlande du Nord. C'est assez incroyable quand même que ce dictateur africain avait décidé de faire le modérateur entre les deux partis irlandais. Ce sont les petites anecdotes de l'histoire anglaise. Un autre document qui manque pas de saveur, toujours de ce Harry Wilson, qui avait décidé d'envoyer un sous-marin nucléaire afin de pallier les coupures de courant qui menaçaient les provinces irlandaises du Nord. Donc voilà les grandes idées qu'en 1974 les Anglais avaient. Voilà. C'est ça, assez marrant. Sur le plan culture, j'ai pas grand chose ce mois-ci.
Il se passe plein de choses pourtant.
Alors il y a le cinéma.
Aujourd'hui même.
Aujourd'hui. Il y a deux grands films qui sont sortis que je n'ai pas encore vus. Je ne suis pas invité, comme tous mes collègues journalistes, dans les premières cinématographiques. Vous avez droit entre un film sur Alexandre le Grand et sur Hitler. Alors sincèrement, aucun des deux m'attire, mais ce que j'ai plutôt trouvé marrant, c'est la façon de les traiter. On a une tonne d'archives sur la Seconde Guerre mondiale et pas grand-chose sur Alexandre. Et pourtant Hitler, on ne parlera que dans ce fameux film, on ne parlera que de ses quelques jours avant sa mort. Par contre, pour Alexandre, on va retracer toute sa vie, même ses soi-disant penchants homosexuels. Alors, je trouve ça incroyable quand même que les cinéastes devraient s'entourer un peu plus d'historiens. En tout cas, pour ma part, j'irai ni voir ni l'un ni l'autre. Je resterai ignorant de ces deux films ou j'attendrai peut-être qu'ils passent à la télé, tout simplement. Mais je vois vraiment pas l'intérêt d'aller voir ce... Je pense sincèrement sur l'analyse que pour Hitler, on n'est pas encore prêt de faire un film sur sa vie. On sera peut-être pas vivant pour voir ce film si on veut avoir un film objectif. Pour Alexandre...
On pensait que l'heure était venue.
On pensait que son heure était venue, effectivement, mais quand on a su que, juste après ce film, des avocats grecs étaient prêts à porter plainte, justement à cause de cette polémique et de l'homosexualité d'Alexandre, je pense qu'on n'est toujours pas prêt de voir un film objectif sur la vie d'Alexandre. Voilà, ça c'est la parenthèse cinéma.
Oui, enfin, il y a de très belles affiches, à contrario, pour annoncer le film Alexandre, donc...
Ah, mais vous pouvez toujours acheter l'affiche.
Ah, très bien. Merci.
C'est toujours possible. Alors, une petite question, une petite devinette. Connaissez-vous Josiane Savigno ?
Oui, c'est les rédacteurs en chef du monde artistique ou je sais pas quoi, ou littéraire.
Littéraire.
Le monde
littéraire.
Des livres, c'est le Figaro littéraire.
Eh ben, on pas est content, elle part. Enfin, elle part ouais. pas, elle est pas virée, parce que c'est un peu comme l'administration dans le monde. C'est-à-dire qu'on lui donne une autre place. Josiane Savigno, ben ça y est, elle est partie et... moi, je suis le seul regret que j'ai, c'est que ce qui m'intéressait quand je m'intéressais à un livre, en règle générale, elle l'aimait pas. Donc, ce qui me permettait quand je lisais ses critiques sur les livres,
et de savoir ce qu'il fallait acheter.
Voilà, ce qui pauvre Josiane. Mais enfin, je pense qu'elle aura pas de problème au sein du monde pour trouver un nouveau poste.
Josiane Savigno, Edwy Plenel, on perd tous les contrepoints alors, nécessaires.
On va faire les grandes consciences. Oui, il y a deux choses. On va savoir d'abord si elle va garder son poste à la télé, parce que vous savez qu'elle a une rubrique.
Non, moi j'ai pas la télé
Guillaume,
alors
chez Guillaume Durand. Concerné. Donc on va savoir si son rôle a encore de l'influence au niveau de la télé. Et je dirais que pour être un peu plus sérieux, je trouve ça bien en ce moment que le monde fasse sa révolution. Il y a eu le livre de Péhanche qui, je pense, a beaucoup joué à ce niveau-là. Et espérons que le monde qui était un quotidien sérieux le redevienne. Oui, le redevienne sérieusement parce que...
C'était à l'époque de l'URSS.
Mais je crois que surtout d'ailleurs, le livre de Péhanche, il y a surtout eu les chiffres de tirage.
Il y a un moment quand on commence à raconter n'importe quoi, on commence à perdre des lecteurs, malheureusement. Je pense sincèrement que, alors c'est peut-être sur Radio Courtoisie, certains auditeurs vont être étonnés, mais je pense que le monde doit reprendre son sérieux. Je vous donne un seul exemple, il y a encore quelques années, les étudiants leur demandaient de lire Le Monde, si vous voulez s'intéresser à la vie géopolitique internationale. Maintenant, on leur demande de lire des journaux anglo-saxons. C'est pas pour rien. Donc, ça serait bien qu'on revienne à l'époque de Boeuf Méry ou d'un André Fontaine, par exemple.
Très bientôt, on leur demandera de lire Relève politique, l'excellente revue dont vous allez venir des rédacteurs en chef.
On leur demandera de lire ça tous les 3 ans, puisque c'est la périodicité.
Ça tombe bien, parce qu'ils
vont pas se fatiguer, mais comme ils lisent de moins en moins, ils mettront peut-être un cycle anti-universitaire à lire.
Oui, mais les articles, pour le coup, sont denses et riches. Donc, ça peut bien prendre 3 ans. Simplement, une auditrice nous demande de nous repréciser qui parle actuellement au micro. Alors, vous êtes bien sur les chroniques de la vieille Europe, donc sur Radio Courtoisie, avec Xavier Fornlier, donc rédacteur en chef donc de Relève politique. Patrick PL, qui nous parlait à l'instant de l'époque bénie du monde, avant qu'il ne devienne diplomatique et même de Jean-Pax Meffray, puisqu'on en était là, de Philippe Christel, consultant, qui nous a fait non pas l'éloge forcément de la Russie, contrairement au procès d'intention que l'on veut nous faire, mais tout simplement d'éclairer la situation géopolitique actuelle en dehors du monde actuel, c'est le cas de le dire.
Et là, la personne qui parle, donc, c'est Grégoire Gambier, qui est journaliste.
Tout à fait. Voilà.
Bon, Patrick, je vais reprendre la parole. Donc, on va parler un peu musique classique. Alors, tout mélomane connaît le grand chef d'orchestre Furt Wangler, mais très peu connaissent le compositeur. Effectivement, il a composé quelques symphonies. Et l'éditeur Arte Nova a décidé de réparer cette erreur. Il vient de sortir la symphonie numéro 2, sa plus connue, sous la baguette de George Alexander Albrecht. Quand je dis cette erreur, c'est parce que sincèrement, il n'y a quasiment pas d'édition de CD des symphonies de Furt Wangler. Et franchement, c'est une pure merveille, avec des accents bruckneriens. Il est effectivement rare d'avoir le courage d'enregistrer un compositeur si peu connu et qui, lui, est resté dans une tradition musicale devenue de plus en plus sulfureuse. Vous savez qu'en ce moment, tout accent germanique sur le plan musical est devenu douteux et nous espérons que l'éditeur sortira les 2 autres symphonies par Albrecht. Donc je donne simplement les références. C'est l'orchestre de la Staatskapelle de Weimar, dirigé par George Alexander Albrecht, 2 CD, prix 17,68, c'est conseillé, édition Arte Nova.
Attention, c'est 17,68 euros, hein. C'est pas des francs. On est d'accord?
On est bien d'accord. Non,
parce qu'il y a des failles spatio-temporelles de temps en temps.
D'accord. Alors, on va continuer avec un DVD. Alors ça, c'est mon coup de cœur. J'ai décidé d'avoir un coup de cœur. Comme il n'y avait rien au cinéma, j'ai décidé de prendre un DVD. Ce DVD, c'est un film anglais.
Vous voyez, hasard. Souvent, Patrick P.
Souvent. Mais j'aime beaucoup les Anglais.
Il y en a qui sont payés en roubles, mais il y en a qui sont payés en sterling ici, hein.
Sincèrement, on m'a toujours dit que l'Angleterre faisait partie de l'Europe, donc reste européen.
Il y a qu'eux qui sont pas au courant.
Il y a peut-être eux qui le savent pas, mais
En deçà du mur d'Adrien.
Je pense sincèrement qu'ils font partie de l'Europe. Donc ce film anglais qui s'appelle The Wicker Man, qui est devenu en Angleterre un véritable film culte. Alors c'est un film des années 70, mais il est ressorti depuis très peu de temps en DVD en France. Enfin, c'est la première fois qu'on le sort et c'est une heureuse initiative de Canal+, dans sa série Cinéma de quartier. C'est une petite idée de génie d'éditer ce pur chef-d'œuvre qui a été souvent à tort considéré comme un film fantastique, étant donné qu'il fut produit par les célèbres studios Hammer. Vous savez, ces studios qui étaient spécialistes des films de Dracula. Surtout que l'acteur principal de ce film est le célèbre Christopher Lee, qui a joué Dracula pendant des années. Pourtant, ce Wicker Man est un film beaucoup plus profond qu'un vulgaire film fantastique. Il est peut-être le seul film qui confronte deux mondes spirituels. L'histoire commence comme un policier. Un inspecteur enquête sur la disparition d'une jeune fille habitant sur une île d'Écosse. Il s'aperçoit rapidement que les habitants ont gardé leur rite païen et n'ont jamais admis la religion monothéiste. Étant un catholique pur et dur, le policier se confronte à Christopher Lee, un châtelain dirigeant l'île. Un rôle extraordinaire pour Christopher Lee. Anthony Schaeffer, le scénariste, qui avait signé la célèbre pièce de théâtre Le Limier, a étudié de très près les anciennes religions d'Europe et a su ne pas tomber dans la caricature, ce qui fait que très vite la tolérance n'est pas forcément dans le camp de la police. C'est peut-être, à mon avis, le seul vrai film païen qui fut tourné et donnera à tout croyant de tous bords une vraie réflexion sur le spirituel. C'est un grand moment de cinéma. En plus du film, vous trouverez sur ce double DVD un reportage sur la préparation du film et un entretien avec les auteurs, dont le génial Anthony Schaeffer, un très bon travail de production.
Oui, je suis assez d'accord avec vous sur l'aspect global. C'est effectivement l'un des meilleurs films qui a été fait sur le paganisme, quoi qu'il y en ait un certain nombre d'autres, notamment Excalibur de John Boorman, c'est bon.
Il y en a d'autres.
Mais ce qui me frappe dans ce film, autant que je m'en souvienne, c'est que malgré tout, les païens, effectivement, c'est intéressant, c'est fun, comme disent les Anglais, mais on est entre la partouze et le sacrifice humain quand même. Alors c'est un peu exagéré. Si c'est traité de façon
très. C'est un film à double tranchant.
Ouais, c'est un film post 68 art, donc il le traite de façon positive, qui aux yeux des Européens de l'heure actuelle paraît un tout petit peu décalé et donc de fait un peu négatif.
Mais à redécouvrir.
Malheureusement. Mais à redécouvrir, bien sûr, en DVD. Remasterisé, sûrement.
Oh, forcément.
Bon.
Forcément.
Alors, puisqu'on est dans les grands auteurs, là, il y a une auditrice qui nous demande pourquoi envoyez-vous des vannes à Jean-Pax Maigret. Alors, donc, c'est pas Jean-Pax Maigret, c'est Jean-Pax Maigret. Et alors, Grégoire Gambier, pourquoi est-ce que vous parlez tout le temps, à chaque émission, vous faites une allusion à Jean-Pax Maigret?
Parce que Jean-Pax Maigret est sans doute l'artiste francophone de la deuxième moitié de la fin du XXe siècle, le plus stimulant. Mais donc on fait des blagues.
Ne brûlez
souvent
pas ce que vous avez aimé, Grégoire Gambier.
Non, mais on fait souvent des blagues parce qu'en fait Jean-Pax Maigret, donc c'est un chanteur qui a chanté l'Occident, comme il se définissait, le chanteur d'Occident. Et qui a chanté aussi beaucoup la nostalgie de l'Algérie française, puisqu'il était pied noir, et la lutte des pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, sous le joug soviétique. Et donc, quand on parle d'un monde à Jean-Pax Maigret, c'est bien un monde qui a existé entre 1944 et 1989, quand le mur de Berlin s'est effondré. Et c'est un monde qui n'existe plus, pour plagier une de ses chansons. Et voilà. Donc c'est un clin d'œil, mais que là, j'espère beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie comprendront.
C'est un clin d'œil qui prouve que nous-mêmes, on a pu trouver Jean-Pax Maigret stimulant et ce qu'il disait à une certaine époque, et cette époque a changé, et donc on se repositionne et nous souhaitons à tous d'en faire autant.
On se repositionne en gardant à l'esprit ce qui a existé précédemment.
Il était souvent seul à l'époque.
Et oui, plus seul que maintenant.
C'est pour ça qu'on lui rend hommage.
C'est un peu comme un hommage, oui, madame.
Voilà. Qui a un coup de cœur?
Oui, Patrick ou...
Non, allez.
Oh, bah, Patrick, il a pas beaucoup parlé. Patrick.
Juste une exposition à aller voir à l'occasion du centenaire de la mort de, d'Auguste Bartholdi. Une très belle exposition. Alors pour une fois, ça va pas être anti-américain, vous allez voir. Une très belle exposition sur la construction et le transport de la Statue de la Liberté. Donc c'est les photographies sont très nombreuses car Bartholdi avait commandé un nombre impressionnant de clichés pour faire connaître son projet et le financer. Très en avance sur son temps, il avait déjà imaginer des miniatures de la statue pour les visiteurs, payantes bien sûr, qui étaient fournies par les ateliers Gaget. C'est d'ailleurs ce nom qui prononcé à l'américaine donnera le mot gadget. Je vous conseille, c'est jusqu'au 6 mars au musée des arts et métiers. Alors c'est voir des photos extraordinaires de la statue de la liberté par exemple, qui est allongée en pleine rue parisienne. C'est assez incroyable. Donc je vous conseille vivement d'y aller, c'est jusqu'au 6 mars, je répète. Et surtout, si vous avez, pour les gens qui ne sont pas parisiens, allez-y en métro pour voir et revoir la magnifique station Arts et Métiers. J'adore cette station. Une œuvre magnifique inspirée des œuvres de Jules Verne. C'est un moyen de rentrer dans le monde de Bartholdi et du début du siècle.
De toute façon, dans ce quartier, on ne peut pas se garer, donc le métro se justifie doublement. Grégoire Gambier, vous avez un livre dont vous voulez nous parler rapidement.
Oui, deux, mais rapidement. Alors, un coup de gueule et un coup de cœur. Le coup de gueule, malheureusement, sera encore un petit peu anti-américain pour certains auditeurs, mais donc c'est un ouvrage de Jean-François Revel, bien connu, qui s'appelle L'obsession anti-américaine. Et donc c'est un monument. C'est pas inintéressant, puisqu'il y a quand même beaucoup d'arguments, une dialectique, une mécanique atlantiste, de vassalité atlantiste, qui est intéressante à connaître. Mais simplement, pour les auditeurs, ça va amuser la plupart d'entre eux. Parmi les nombreux arguments expose Revel comme un grand catalogue pour expliquer qu'en fait les États-Unis sont bons, gentils, etc. et que en fait c'est surtout la France, l'Europe et a fortiori la Russie qui sont méchants. Je cite donc Revel, c'est parce que la France aveugle avait refusé toute décolonisation après 1945, en parlant de la guerre d'Indochine. C'est parce qu'elle s'était inconsidérément fourvoyée dans une guerre lointaine et interminable, durant laquelle elle avait d'ailleurs maintes fois imploré et parfois obtenu l'aide américaine. Bon, quand on sait le rôle de ce qu'était la CIA à l'époque pour la, vis-à-vis du Viet Minh, mais bon. C'est parce que la France, battue à Dien Bien Phu, avait dû signer en 1954 les désastreux accords de Genève, livrant la moitié nord du Vietnam à un régime communiste qui s'était aussitôt empressé de violer les 10 accords. C'est donc indubitablement à la suite d'une longue série d'erreurs politiques et d'échecs militaires de la France que les États-Unis furent amenés plus tard à intervenir. Voilà, ce que pense, heureusement, dans un silence relatif, parce qu'il vend beaucoup de livres, Revel, ce qu'il faut bien appeler les vassaux atlantistes français.
Alors le coup de cœur.
Le coup de cœur, c'est Gabriel Robin, ancien ambassadeur de France à l'OTAN, notamment. Son livre « Entre Empire et Nation, penser la politique étrangère » aux éditions Odile Jacob. Livre très intéressant, très discutable. C'est un essai, en fait, sur ce qu'est la politique étrangère, ce que devrait être la politique étrangère de la France. Alors c'est discutable à certains points de vue, mais c'est très intéressant et notamment, cela rappelle que en politique étrangère, en droit international, seuls les États, c'est-à-dire une fois de plus le droit de la force, la puissance, comptent et sont sujets du droit international. Et c'est très intéressant de redécouvrir de façon concrète, puisque c'est un peu une expérience de terrain de Gabriel Robin.
Ok, Gabriel Robin, Entre Empire et Nation, édition Odile Jacob. Il nous reste 2 minutes. Xavier Van Lierde, vous avez 30 secondes à consacrer à un coup de cœur ou un coup de gueule?
Oui, en 30 secondes, je veux bien terminer sur un coup de gueule. C'est dommage de terminer sur un coup de gueule. J'aurais préféré terminer par quelque chose de positif. Le coup de gueule est contre Régis Debray. Alors, je suis navré parce que Régis Debray, à bien des égards, on le trouvait sympathique. Il a une attitude exemplaire pendant l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Il écrit des choses très justes en géopolitique sur le rôle de l'OTAN, etc., etc. Mais alors là, il vient de signer un petit livre qui s'appelle Le Plan Vermeil. Le Plan Vermeil, c'est un pastiche de rapports administratifs rédigé à la demande du ministre par un énarque qui serait soucieux d'apporter des solutions rationnelles aux problèmes économiques et sociaux qui seront ceux de la France suite au vieillissement accéléré qui est le sien, puisque on le sait, en 2015, environ 50% de la population française aura plus de 50 ans, en 2020, les plus de 60 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans, etc., etc. Et la solution imaginée par ce rapport administratif, dans une société jeuniste où on ne valorise que la jeunesse, la performance et autres, c'est de parquer les vieux dans le centre de la France et pour les laisser mourir, voire pour les exterminer. C'est là où ça devient un coup de gueule, c'est qu'on a l'impression que les personnes âgées sont en passe d'être martyrisées par les jeunes. Or, dans un système démocratique, on le sait, c'est la majorité qui a le pouvoir. Or, les vieux sont aujourd'hui en passe d'être de plus en plus nombreux. Je donnerai un seul exemple et j'en terminerai par là. En 1982, l'âge moyen de l'élu syndical ou politique était de 45 ans. En 2000, il était déjà de 59 ans et ça ne cesse de se poursuivre. Je trouve donc assez désagréable de voir un 68-art qui a fustigé les vieux cons dans sa jeunesse, fustiger maintenant les jeunes cons lorsqu'il est plus âgé et imaginer un complot, là pour le coup, qui n'est pas seulement un pastiche, mais parfaitement imaginaire, des jeunes contre les vieux, alors que précisément, c'est l'avenir de la France qui est en danger aujourd'hui et pas son passé.
Patrick PL, très vite.
Très vite, le titre du film, on me demande le titre du film des années 70, donc c'est The Wicker Man, c'est aux éditions Canal+, la collection Le Cinéma de Quartier, c'est un double DVD, vous trouverez ça dans vos magasins habituels.
Merci. Deux messages pour finir et puis on remerciera nos auditeurs et on se fait un petit peu plaisir. Un auditeur nous dit: tout ça c'est très clair, c'est cohérent, merci pour votre intelligence souriante et sereine, ça fait du bien, continuez, merci. Bravo à ces jeunes qui mènent l'émission ce soir, on aimerait les entendre plus souvent. Ça c'était la séquence autocongratulation. Merci à vous messieurs, merci Grégoire Gambier, Patrick PL et Xavier Van Lier.
Merci.
Merci aux auditeurs des Chroniques de la Vieille Europe sur Radio Courtoisie et bonne soirée à tous et au mois prochain.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 5 janvier 2005 de 18h à 21h, en différé jeudi 6 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé.